du grand séducteur qui doit régner 1290 jours sur le monde entier. Bon. Alors, l'effort que nous faisons, c'est pas seulement à cause du monde ambiant dans lequel nous vivons et de tous les substituts de mystique intérieure qui donnent à un très 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 grand nombre de personnes qui cherchent la vérité et la paix de trouver une solution qui leur permet du coup de ne pas du tout se sentir dans le besoin de la vie spirituelle. Dans ce qu'il s'installe dans toutes ces méthodes-là pour se réaliser dans ce qu'ils appellent eux la voie spirituelle, qui n'a rien de spirituel puisqu'elle est purement métapsychique. N'est spirituel que ce qui s'opère par la médiation des puissances spirituelles, évidemment. La liberté spirituelle, le cœur spirituel et l'intelligence contemplative spirituelle qui fait le propre de l'homme. La régression m'enferme nécessairement dans le monde psychique. Ce qu'il faut comprendre, que la régression de nos aspirations spirituelles dans le monde psychique a pour... c'est une inscription c'est pas volontairement qu'il choisit de le faire, hein, si je puis dire, c'est pas une volonté explicite de fuir le monde spirituel, mais c'est un fait. Mais c'est une inscription à l'intérieur de l'espace qui s'est introduit dans la brèche qui a pénétré en nous à cause des conséquences du péché originel. Donc, de la première transgression. Et c'est pour mieux se préparer à échapper aux conséquences de la grande épreuve que va originer la transgression, non pas originelle, mais la transgression suprême. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà pourquoi je pense que le démon a engendré universellement cette espèce de climat qui est le nôtre aujourd'hui. Mais on va le comprendre petit à petit, et je crois que c'est à chacun d'entre nous de percevoir personnellement à quel point c'est effectivement net, clair, précis, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le péché originel? Ce qui se passe quand on rentre dans le péché originel, bon, bien sûr, il y a le monde du pneuma, le monde des puissances spirituelles en nous, de la liberté, imprègne comme une éponge tout notre corps. Notre corps est spirituel dans le premier instant de sa création, parfaitement, c'est-à-dire que l'unité est totale à 100%, même 120%, si vous voulez. Oui, 120%, puisque l'intelligence déborde le corps, par exemple. Hein. Donc, le corps est substantiellement imprimé, impressionné, indicté, complet de la présence spirituelle de notre pneuma et de nos puissances spirituelles d'amour, de lumière et de liberté dans l'ordre du temps. Notre corps est complètement spirituel. Il ne le reste pas longtemps, je le sais bien, puisque il y a cette propagation du péché originel, pas justement par le point de vue du corps, dans le contact avec le monde, le contact avec le corps de la mère, qui n'est pas immédiat, le contact avec le corps de la mère. Bon, ça c'est une autre question, on n'a pas le temps d'y aller sur ce point-là. Mais ce qui se passe en tout cas, c'est que notre âme, c'est-à-dire la partie psychique, la partie sensitive, la partie lumineuse vivante de notre âme, de notre intériorité, est complètement, elle aussi, imbibée de la lumière spirituelle de notre vie contemplative et de l'amour spirituel de notre affection et aussi donc de cette racine, de cette intériorité transcendantale de notre liberté dans l'ordre du don, et aussi de la présence aussi donc du roi, enfin de la paternité créatrice de Dieu, et donc il y a une réceptivité évidemment spirituelle vis-à-vis de tout ce qui existe. Bon, très bien. Alors, le péché originel fait quoi du coup à ce moment-là? Bon, le péché originel, il va faire qu'il va y avoir une rétractation. Le monde spirituel va se rétracter. Vous voyez, le monde spirituel qui est en nous, est, on ne peut pas le déraciner. Si on déracinait l'esprit complètement de l'âme et du corps, eh ben, on mourrait. Hein? Ça arrive quelquefois dans les sixièmes demeures qu'ils volent de l'esprit. Mais ça arrive à peut-être 2-3 personnes par génération dans le christianisme, dans la sixième demeure. C'est très rare le vol de l'esprit. De l'esprit. Saint Thérèse d'Avila, c'est arrivé. Saint Thérèse d'Avila, que l'esprit soit arraché hors d'elle et que soit assumé complètement à l'intérieur de Dieu, hein, puis revienne ensuite. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc, ça n'a rien à voir avec la vie surnaturelle chrétienne normale et la transformation. C'est un miracle. De différence, mais on n'a pas le temps d'en parler non plus, hein, qu'il y a entre quand Dieu se saisit, nous assume complètement, entre l'extase, le ravissement et le vol de l'esprit. Donc, quand ça vous arrivera, bon, venez nous trouver, on vous expliquera si c'est un ravissement ou si c'est le vol de l'esprit. Sachez d'avance que c'est probablement pas le vol de l'esprit. Alors, donc on continue. De toute façon, pas, je pense. Donc, je reviens et je dis simplement, c'est une rétractation. Donc, l'esprit se rétracte, c'est-à-dire il devient plus court. Il n'a plus sa place. Il prend une moindre place. Regardez, dans le cristal, les six et la septième demeure du centre, où là, tout est encore à l'état pur du point de vue de la mémoire ontologique. On voit bien qu'il y a une rétractation. Comme dans une guerre, hein, où on voit les soldats se regrouper autour du château, puis ensuite dans le château, puis après dans la citadelle, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, une tractation. Il y a une zone donc intermédiaire, toujours. Une zone intermédiaire qui est habitée par quoi? Ben, qui est habitée, le corps est habité par le point de vue psychique de l'âme. L'âme, elle est psychique. L'intériorité lumineuse vivante, c'est du psychisme. D'accord? Vous avez l'âme, l'esprit et le corps. J'espère que vous n'apprenez rien. Hein. Donc les trois sont mélangés. Si vous mettez du rouge, du bleu et du jaune, ça donne du violet, je crois, c'est ça?
Oui, s'il n'y a pas de jaune.
Hein? Bon, alors il y a un mélange de trois couleurs qui donne je sais pas quoi. Bon. Là, normalement, on est ces trois couleurs mélangées. Voilà. Donc, s'il y a la rétractation de l'esprit, et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici, voilà, si vous dressez un grand cercle sur le tableau, voilà, corps, âme et esprit, tous ensemble. Sont dans l'unité parfaite. Pourquoi? Parce que l'unité, Dieu nous crée dans l'unité parfaite, et on est parfaitement intérieur, parfaitement incarné et parfaitement spirituel en même temps. Voilà comment Dieu nous crée au départ. Hein, ce qui est évident. La créature de Dieu ne sert évidemment pas à une imperfection. Si la créature de Dieu se terminait à une imperfection, si vous voulez, une dislocation, une division, ce serait bizarre. Et Dieu est au milieu de tout ça. Donc, voilà, la présence créatrice de Dieu s'unit à nous dans cette unité-là. Voilà. Dès lors qu'il y a le péché originel, alors l'âme, sur mon grand cercle, se rétracte. Alors, il y a vous faites un cercle un petit peu plus intérieur, qui est un peu plus petit, n'est-ce pas? Alors la partie spirituelle est dans le petit cercle et la partie corporelle et psychique se trouve dans la couronne. Ça va? L'âme est partout. Elle est du centre jusqu'au corps. Parce que sinon, votre corps mourrait si le corps n'était pas en contact avec l'âme. Donc, si le corps survit, c'est à cause de la présence de l'âme. C'est l'âme qui vit le corps. Mais ce n'est plus l'âme et l'esprit. L'esprit, lui, survit dans la substance et dans l'âme en son sein. Ça va? Donc, mais normalement, notre nature humaine a été prévue par les lois de la nature, de notre nature humaine incarnée et spirituelle, pour que l'esprit habite cette partie ici-là de la couronne. Vous me suivez? Et donc ici, il y a comme un appel à vivre de quelque chose l'esprit d'absolu. L'esprit est une puissance d'absolu, une puissance ontologique, donc entitative, de lumière spirituelle, d'amour lié à l'éternité, etc. Donc c'est très très puissant. L'âme est liée à des choses transitoires, sensibles, lumineuses, intérieures et vécues. Hein. Donc quand on dit « Ah, moi je vis beaucoup de mon vécu. Bon. » Alors, c'est l'âme. Et alors cette partie ici qui n'est pas habitée par le point de vue donc, de nos puissances spirituelles, hein, qui sont oubliées, qu'on oublie de plus en plus, hein, on se réfugie de plus en plus dans notre monde humain affectif, non spirituel, dans notre monde intellectuel, non contemplatif, spirituel, et puis dans notre liberté, bien sûr, subjective, non spirituelle. Alors, du coup, ça veut dire qu'on vit dans la partie de notre âme qui est non spirituelle. Mais notre âme, elle a pour vocation d'être habitée par cette tension spirituelle, qui est évidemment beaucoup plus intense que la lumière simplement sensitive, vivante, de notre intériorité humaine. Cette soif de vie intérieure-là, nous la partageons avec les animaux supérieurs. Mais cette soif-là n'a pas vocation de plafonner à la joie et à la bêtitude de l'intériorité animale supérieure. Voilà. Bon, on est un petit peu habitué à vivre de plus en plus aujourd'hui d'une manière psychique. Bon, je crois que ça ne fait de souci à personne que de considérer, constater, disons, que voilà, notre pauvre humanité aujourd'hui, elle est psychique. C'est vrai. Au niveau de la noblesse, sentiment, numantisme, ça ne va pas beaucoup plus loin que la noblesse animale. D'ailleurs, le thérapeute de l'homme, c'est un psy. Ah, je me sens pas bien dans mon humanité. Ah, allez donc voir un spi. Vous avez jamais entendu ça à la télévision. Vous avez jamais entendu ça en université de médecine, ni en neuropsychiatrie, ni en... D'ailleurs, ça n'existait même pas la neuropsychiatrie, donc, ni en neurologie, ni en psychiatrie, ni en médecine, ni en philosophie. Donc ça veut dire que sur le plan scientifique de la culture contemporaine, l'âme humaine n'est pas spirituelle. Donc il n'y a pas de thérapie de l'homme. Il y a une thérapie en l'homme de l'animal en lui. C'est ça le psy. Alors, on va prendre une camisole chimique, on va, ce sera une thérapie de légumière, animale, psychique. Et maintenant, aujourd'hui, métapsychique. Alors, métapsychique, tout ça pour vous dire, pour comprendre ce que ça veut dire, métapsychique. Métapsychique, c'est... Voilà. Je reçois quand même des sacrés chocs, hein, comme on dit aujourd'hui, des stress, des pressions terribles. Évidemment, parce que je suis affaibli, si je vis sur le plan psychique... assez vite, je vais tomber dans les dérives qui correspondent à ce que vous savez, donc les névroses, l'hystérie, les débordements hystériques, les états cataleptoïdos somnambuliques et compagnie. Donc, c'est terrible, quelqu'un dans une idée fixe qui est tout le temps à faire le déni, la cristallisation, la sublimation. En plus, c'est horriblement pénible à vivre, mais on est tellement habitué à vivre comme ça que finalement, bon, on s'y habitue, on finit par trouver ça normal. Et on se dit, bon, soyons patients. Nous allons maintenant, pour résoudre la question, eh bien, on va vivre du pardon, de l'accueil et de l'écoute. De l'écoute de quoi? Des délabrements métapsychiques, des délabrements, des cristallisations, des délabrements de la sublimation, des délabrements de la... C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez être absolument certain, dès que vous faites de l'écoute, vous pouvez être sûr que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Une perte de temps. Mais c'est vrai que ça permet que la personne tourne autour d'elle-même, de percevoir quelques vérités psychiques et métapsychiques, on ne sort pas de l'au-delà de ces blessures. Et pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas le centre de gravité, ni la nature spirituelle des puissances, ni son objet, ni son acte. Pourquoi? Parce que l'homme ne retrouve ses puissances que si il pose des actes spirituels. Donc si vous vous ratez à l'écoute, vous savez bien que l'écoute c'est un état de passivité, donc il n'y a aucun acte. Alors on se décharge. Mais un an après, il n'y a quand même eu aucun acte, ça s'est rechargé autrement. Et c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas de tourner autour de l'agapé d'écoute. Ça continuera, vous pouvez le faire 20 ans, vous aurez toujours le même problème, les mêmes blocages. La même personne, elle va avoir les mêmes colères, les mêmes reculs, elle dit mais non, c'est pas vrai, etc. Pareil, et même peut-être un petit peu plus qu'avant. C'est comme ça. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors reprenons, alors attention, voilà d'un seul coup, un péché cette fois-ci qui arrive. Vous adhérez à, parce que dans un état quand même, la force spirituelle étant si amenuisée, le péché arrive, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une grande secousse, voyez, mais cette fois-ci spirituelle négative. Alors à ce moment-là, la partie spirituelle qui est en vous est déjà forcément, fortement régressée, rediminue. Encore plus. Régresse encore plus. On passe de la citadelle au fort intérieur. Voilà. On abandonne les créneaux et on rentre dans le truc. Voilà. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder le Seigneur des Anneaux. C'est merveilleux de voir ça. Comment cette espèce de combat extraordinaire des forces du mal contre la Jérusalem spirituelle de l'homme. C'est formidable. Bon. Mais alors, du coup, d'un seul coup, c'est d'un seul coup que le péché fait ça, vraiment une forte régression de la présence spirituelle naturelle de votre vitalité intérieure libre, lumineuse et d'amour spirituel. Mais alors, dans l'espace nouveau, laissé à la place de l'esprit à l'âme, au psychique, cet espace nouveau, lui, il est habitué à recevoir la puissance ontologique et spirituelle de sa vitalité propre, à raison de quoi l'âme ne suffit pas pour le remplir. D'accord ? Donc il aspire à 10 fois plus que son espace. Et c'est pourquoi ça fait comme un élastique, si vous voulez, ça fait une tension. Zim ! Et cette tension, c'est ce qu'on appelle la libération d'énergie métapsychique. C'est une tension qui est beaucoup plus forte que la tension toute simple et pacifique de l'âme intérieure psychique elle-même. Et du coup, on passe du psychique au métapsychique. Et c'est comme ça qu'on s'ouvre les centres corporels, c'est comme ça qu'on sort en astral, c'est comme ça qu'on se déchire les centres corporels, c'est comme ça qu'on s'ouvre les chakras, si vous voulez, c'est comme ça qu'on au fur et à mesure, on s'ouvre des espaces de perception extrasensorielle, médiumnique et compagnie. rendant le fluidique et compagnie. Mais ça, c'est uniquement sur le plan magnétique. Mais maintenant, vous avez l'équivalent aussi sur le plan de la perception des choses. Hein? La perception. Ah oui, je vois dans votre âme. Je sais pas. Donc ça, cette espèce de médiumnité, cette voyance, c'est beaucoup de messages viennent comme ça. On les croit célestes, mais non. Alors, regardez, par exemple, je sais pas, j'ai pas envie de vous faire la liste, mais ah, mais du coup, je reçois de Jésus, toc, écriture automatique. C'est purement métapsychique. L'écriture automatique est évidemment métapsychique. C'est un phénomène métapsychique extrêmement connu. Ah oui, mais c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, mais c'est quand même par la voie métaphysique. Il y a un petit problème, parce que Jésus, normalement, c'est par la voie spirituelle. Alors, s'il passe par la béance, qui est-ce qui circule sur le toboggan des fréquences métaphysiques? Les esprits glisseurs, les esprits faufilaires et les puissances intermédiaires. Voilà pourquoi vous partez immédiatement et vous êtes extraordinairement et immédiatement ouvert à la pénétration des puissances cosmiques, comme le dit l'épître. Les puissances, les dominations. Frères, soyez sobres, éveillés, votre adversaire le diable est là, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fort dans la foi. Alors voilà. Donc, on va faire des expériences de régression qui sont des péchés très forts d'aujourd'hui pour régresser encore plus, accentuer la partie intérieure de notre réceptivité métaphysique pour repartir dans un monde nouveau, dans une liberté spirituelle, cosmique, christique, de paix, d'amour, de compassion, de perception de l'autre et d'autoréalisation. Mais le problème, c'est que, eh bien, il y aura le besoin d'un ministère de puissance, de libération, de délivrance et d'exorcisme. On pourrait donner des exemples inouïs. Pareil pour la NDE, la Near Death Experience, vous faites les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont basés sur la régression métapsychique. Elisabeth Kubler-Ross, Patrick Monroe, tout ça, c'est qui sont les grands maîtres des grands principes hein, de la réaction métapsychique pour les mourants, pour les malades. L'approche des mourants, l'écoute des mourants. C'est pour les placer au deuxième stade de la préparation à la sortie astrale. C'est la méthode rosicrucienne. Jean-Paul Sartre. C'est aussi. Comme ça, je peux vous dire que c'est exactement la même méthode que la méthode tibétaine pour la préparation et la réception des âmes des morts après les mourants pour les introduire dans les cercles et les circuits donc cosmiques après leur mort. Voilà, c'est évidemment. Ils se sentent mieux, ils disent mieux, nanana. Voilà, non. L'Église, elle dit quand vous êtes face à quelqu'un qui meurt, vous priez pour eux, vous priez avec eux, vous dites je vous salue Marie avec eux, mais vous mettez dans l'au-delà de l'unité des deux entre vous et elle, vous priez dans l'au-delà de l'unité des deux pour que Jésus et la grâce viennent en eux, le rayonnement du Sacré-Cœur, etc., etc. Mais vous dites ça à l'hôpital en disant, voilà, je viens visiter les malades. Non, vous n'êtes pas admis, hein. Ça, c'est pas les soins palliatifs, ça. Vous êtes là, vous écoutez, vous vous taisez, et vous dites, mais ne vous angoissez pas, calmez-vous, tranquillisez-vous, je suis là. Et vous, vous faites le vide, pour que la personne fasse le vide de son angoisse. Vous écoutez, et puis voilà. Maintenant, l'Église elle dit, vous donnez le sacrement des malades, vous apportez la communion, dites notre Père, vous dites, etc. Bon, mais ça c'est un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est le processus intérieur qui se produit par ces méthodes, qui sont devenues des méthodes qu'on appelle de compassion métapsychique. La compassion est métaphysique. La miséricorde, elle est spirituelle et surnaturelle. Hein. Donc, faire attention à la différence. Petit à petit, il faut sentir cette différence-là. Donc, dès qu'il y a régression du monde spirituel en nous, il y a un espace nouveau dans l'âme. L'âme, il lui faut 100 fois plus de force que l'espace libéré par la partie spirituelle régressée. Et donc, il faut des choses beaucoup plus fortes. Alors, c'est ça qui fait la déchirure des centres corporels. Hein. Les déchirures métapsychiques, les blessures métapsychiques. Alors, c'est facile, c'est... Bon, j'ai honte de vous dire ça parce que c'est tellement évident que, bon, vous le saviez déjà, je suppose. Bon, donc, donc, c'est bien de savoir comment fonctionne le samadhi sans racine, l'ouverture du chakra. Comment est-ce qu'on fait pour retenir les chakras quand il y a médiumnité et tout ça? Hein? Parce que vous n'avez pas résolu vos problèmes psychologiques, hein, et vous rentrez dans la vision naturelle, à la mesure où vous y tenez à cause de votre ego, je m'excuse, mais ça me paraît difficile, hein, d'aller jusqu'à la cinquième demeure. Hein. Donc, faut pas se laisser berner comme ça. Pour ça, il faut vraiment réapprendre à faire des actes d'adoration dans l'acte pur, hein, et avec le jugement d'existence. Et puis enfin, apprendre à faire des actes de foi qui ne sont pas métapsychiques. Hein. C'est évident qu'on peut très très bien, par voie médiumnique, métapsychique, sentir très intuitivement et se retrouver... Et s'engloutir dans le mental des cellules sans que ce soit spirituel, c'est-à-dire dans l'odeur intérieure de l'âme. Et on avait une âme aussi dans la première cellule. On n'était pas que esprit, on avait une intériorité d'âme lumineuse vivante. Hein, il y avait quelque chose qui relevait de la présence intérieure de vie, hein, qu'il y a dans les plantes, qu'il y a dans les animaux, hein, qu'il y a dans le monde sensible. Hein. Dans le monde de l'estimative. L'estimative, c'est très très noble. Hein. L'estimative, c'est purement immatériel. Hein. Un aigle est fidèle jusqu'à la mort. Hein. Parce que les hommes ne sont pas toujours fidèles jusqu'à la mort. Hein. Le lion et la lionne sont fidèles jusqu'à la mort. Hein. Une noblesse dans la fidélité. Ça va très loin dans l'intériorité animale. C'est vrai. On peut confondre quelquefois. Énormément de gens confondent la cogitative, qui est l'équivalent de la stimative chez l'homme, avec le monde spirituel. La cogitative n'a strictement rien à voir avec le monde spirituel. On l'a en partage avec l'animal. Bon, donc, dans la première cellule, bien sûr, il y a une intériorité. Comme ça, extraordinaire, de présence à tout ce qui est source de vie dans le monde des vivants. C'est pour ça que Dieu dit à Adam, tu donneras un nom à chaque animal. Tu es le roi de l'univers, c'est toi qui donneras sa spécification universelle à chaque animal. Sa participation à la substance universelle de chaque espèce, c'est pareil. Donc il faut bien sûr un lieu de rencontre. Alors je peux très bien, en passant par la voie de l'âme, séparer de l'esprit, séparer de la mémoire ontologique, séparer de l'intellect d'agence, séparer du cœur spirituel humain d'amour, je peux très bien rentrer et vivre effectivement, faire revenir par régression. Retrouver l'odeur de mon mental cellulaire originel. C'est ça, Sri Aurobindo. Alors évidemment, c'est étourdissant. C'est évident, je suis d'accord, c'est étourdissant. Faites ça. Non, ne le faites surtout pas. Si vous faites ça, vous ferez ce que fait des centaines de millions de gens. Parce que les bouquins de Sri Aurobindo, c'est des centaines de millions de gens. c'est pas quelques milliers d'ouvrages, c'est des centaines de millions. C'était l'ouvrage qui s'est le plus vendu pendant 30 ans dans toutes les bibliothèques philosophiques, ésotériques, théologiques, métaphysiques. Ma sœur, vous savez, qui est une sœur extraordinaire, elle est encore vivante. Alors évidemment, évidemment, avec ça, avec ce mental des cellules, vous rajoutez à ça, ils vont, le rabbi Yvon Amar, ça fait un sacré mélange. Un des plus grands maîtres, tu vois. Ça fait qu'un truc christique messianique, universel, formidable. C'est marrant, vous voyez, on commençait la petite session ici, elle m'a téléphoné. À l'heure où on commençait ici. Donc, oui. Mais bon, un jour elle venait d'une session justement sur le rechargement du mental cellulaire de sa vie, etc. Pour retrouver son identité, bien sûr, métaphysiquement, hein, dans le verre, etc. Alors, puis elle va chez une autre de mes soeurs, une autre soeur. C'était trop marrant. Et quand elle frappe la porte, elle franche sa bagnole, elle frappe la porte, la porte s'ouvre. Et au moment donc où elle sonne, le fait qu'elle ait sonné, ça a fait péter toute l'électricité de la maison. C'est extraordinaire.
J'ai essayé immédiatement de charger.
Non, mais c'est je dis ça comme ça, c'était peut-être un hasard, un hasard extraordinaire. Mais je me rappelle plus les circonstances, mais c'était tellement net parce qu'il y a eu ça s'est fait une fois, c'était une deuxième fois, une troisième fois, donc c'était pas un hasard, voilà. Donc c'était à cause de ça. En plus, il y a des interférences ondulatoires. Donc pourquoi c'est des systèmes électroniques, hein, chez ma sœur, voilà, l'électricité, donc voilà, donc finalement ça a tout pété, voilà. Donc bon, c'est ça, vous voyez ça, c'est trop fort. Alors, si je rentre dans une maison chrétienne, ça fait tout péter, c'est bizarre, hein. Alors bon, ça n'a rien à voir, c'est strictement un autre sujet, c'est pour dire, voilà, il y a, ça existe, tu veux, le mental, il y a, c'est tellement fort la mémoire ontologique que ce qu'elle laisse dans le monde psychique encore aujourd'hui qui est en nous, et en reste très fort. Et c'est pour ça qu'on vient épuiser. Hein? C'est extraordinaire de prendre tous les fruits du spirituel sans prendre le spirituel. C'est très fort.
Et comment discerner si une personne me dit, j'ai écrit sous l'influence de Jésus.
Ah, si, elle a écrit sous l'influence de Jésus, c'est écrit automatique, c'est métapsychique. Donc, tu peux. C'est très bien, je vous aime beaucoup, c'est très intéressant. Voilà. Voilà, j'espère que vous lisez aussi Saint Jean de la Croix. Voilà. Je m'abstiendrai de répondre. Voilà. Donc. Et puis je vais vous dire une chose, je ne sais pas tout. Mais je signale quand même, puisque vous posez la question, je vous le dis quand même, mais ce n'est pas notre sujet. Maria, attendez, je viens de ces bouquins, ce n'est pas ceux que vous avez lus, mais je viens de ces bouquins. Voilà. Jésus qui lui dit, tata, il parle des civilisations humaines qui sont dans d'autres galaxies. Alors, je m'excuse, ça ne va pas. Je suis désolé, ça ne va pas. C'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il y a aucun. Bon, ce n'est pas vrai. D'accord ? Mais ceci étant, bon, vous savez, quand Jésus donne quelque chose, le lendemain, Satan passe dans le même champ pour faire pousser de l'ivraie. Si c'est par voie métapsychique, écriture automatique par exemple, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir de temps de l'ivraie. Même à supposer qu'il y ait quelque chose qui vienne, de Jésus. Mais pour faire le tri entre les deux, maman, il n'y a que la doctrine infaillible de l'Église qui est purement spirituelle et surnaturelle. C'est pour ça que je préfère faire des relèvements pneumato, ça veut dire spirituel, surnaturel, que des reprises de soi dans le psycho-spirituel. Ah, dans le psycho-spirituel, vous pouvez toujours vous alimenter dans le psychisme, reprendre le spirituel, le psychisme, le spirituel, etc. C'est toujours ça. C'est ces tambours de la machine, ça. J'aime bien tâter le pouls des autres, etc. J'adore ça. Mais se perdre en Dieu, ça, c'est autre chose. Se perdre en Dieu, être transformé par Dieu, ça, c'est autre chose, vous comprenez? Alors, donc, voilà, donc c'est pour ça que si jamais vous voulez avoir une idée de ce que c'est que le samadhi sans racine, une idée de ce que c'est que le mental des cellules, bah, dites simplement d'informations. Vous avez, je vous le donne, hein, je vous le donne. C'est vraiment ontologique. Bon, il y a quelques passages aussi, bien sûr, de Sainte Catherine de Sienne, Saint Augustin, etc. Il n'y a quand même pas que les sectateurs de l'hérésie qui ont parlé de la mémoire du mental originel. Hein. Pourquoi est-ce qu'on parle de réincarnation? Parce que tout simplement parce que quand on rentre dans le mental cellulaire, on constate qu'il n'y a pas de discontinuité entre le point de vue psychique originel et ce qu'il y a avant. Mais quand on est dans la mémoire ontologique, on s'aperçoit par expérience tout de suite que c'est d'un seul instant que la mémoire ontologique spirituelle apparaît. Mais si on a réussi à déraciner l'existence de la mémoire ontologique spirituelle, la memoria dei, à ce moment-là, on a réussi à le déraciner et rentrer dans l'expérience donc, du mental cellulaire psychique, indépendant du mental cellulaire de la memoria dei, notre liberté spirituelle, forcément, il n'y a pas cette rupture transcendantale du rien à tout dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'on se dit, j'y étais avant. On peut même revenir avec avant. Toc, 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 et c'est comme ça, les meurois givotants, etc., circulent vachement facilement, comme ça, pour revenir avant, comme ça. Alors, il y en a un qui adore faire le guide, n'est-ce pas? Évidemment. Si vous faites le samadhi sans racine, c'est pareil, vous arrivez à cet état d'épure, oui, et à ce moment-là, c'est le cycle, hein, l'hindouisme est à cause de ça, c'est pour ça que l'hindouisme est réincarnationniste. C'est facile. Donc, ce sont des Elisabeth Kubler-Ross, soins palliatifs, morts, givaudans, tout ça, comment il s'appelle l'autre, bon, je ne me rappelle plus parce que ça fait des années et des années que j'ai pu regarder toutes ces. Tous ces sectateurs, ces affidés, tout ça. Eux aussi, bien sûr, ils sont réincarnationnistes. Ils sont palliatifs. C'est le principe fondamental, c'est la réincarnation de la méthode. Oui, par exemple, oui. Oui. Une near-death expérience, partie en métapsychique. évidemment. Hein? Monroe, je crois. Hein? Donc, vous avez, peu importe, vous avez. Quand, oui, bon, j'ai pas envie de vous enseigner sur ces trucs, franchement, c'est sans intérêt. C'est quand même bien d'être prévenu, voilà, vous le savez, bon, vous le savez. Si quelqu'un un jour se lance dans les soins palliatifs, qu'il vienne nous trouver, je lui donnerai le bouquin de ces gens-là. Je tricherai pas, hein, le bouquin de ces gens-là. Ils vous diront d'où viennent leurs trucs, hein. Les sources noires. Il y a une recension extraordinaire là-dessus. Par exemple, Elisabeth Kubler-Ross, elle dit carrément, hein, c'est d'où ça vient. C'est elle qui est à l'origine, vous savez, ce qu'on appelle le travail de deuil. Quand vous êtes infirmière, vous faites le travail de deuil. Hein? On vous explique, le travail, ça fait partie de votre formation. Justement, c'est pour ça que là, ici, on explique toutes ces choses-là, ici, hein, dans ces, nos histoires-là. Alors, donc.
Je croyais qu'elle s'était convertie. J'avais entendu dire ça.
La méthode reste. Voilà, tout ça pour dire donc ce qu'il y a dans ce que c'est que cette recension. Cette recension ne vous apprendra rien de positif, elle vous apprendra simplement que la mémoire ontologique, elle existe. Donc maintenant, comment on fait, comment elle est, c'est pas expliqué. Ce qu'on voulait faire après, mais ça ne nous a pas été possible, c'était d'établir métaphysiquement, par démonstration métaphysique et scientifique, l'existence irrenversable de la mémoriété. Et puis voilà, et puis ça n'a pas été possible, donc on est passé ici à d'autres choses. Voilà, donc on en était à la page donc 40, le tableau. Vous voyez à l'origine, vous voyez trois cercles en haut qui sont en principe roses dans l'original. La très sainte Trinité vous crée et crée en vous toutes ces neuf émanations qui font dans l'unité la vie intérieure de votre innocence originelle, de votre liberté dans l'ordre du don, de votre oui libre, de liberté substantielle, jusque dans le corps, à travers le corps et dans l'intériorité de l'âme. Alors il y a un oui, c'est le consentement. Pourquoi ? Parce que vous vous nourrissez à ce moment-là du choix de la liberté divine. Alors le choix de la liberté divine vous place, replace dans la créateur éternel de Dieu le Père et donne place à la paternité créatrice de Dieu et fait qu'il y a en plus l'unité de la présence créatrice de Dieu qui décidément demeure à ce moment-là. Voilà ce que c'est donc que votre liberté. Mais si vous choisissez, à cause de la propagation du péché originel, si vous choisissez de regarder ce qui se passe dans la propagation du péché, même un petit peu, un tout petit trou de la serrure au milieu de cette immense château intérieur, un petit trou, là, je regarde un petit peu ce qui se passe dans l'inversion de la mémoire ontologique. Hein. Je regarde, ça s'introduit donc à l'intérieur de moi. Je fais un choix donc de liberté orgueilleuse humaine. Alors, la glu obscure commence à pénétrer dans le château de ma mémoire ontologique. La glu obscure, les bêtes venimeuses. Et il va se créer le cercle infernal de ma liberté spirituelle subjective, la dépendance à l'élan des profondeurs, etc. Je vais passer de plus en plus donc dans un cercle où il y a donc ce, vous le lirez si vous voulez, c'est très simple parce que c'est dans le texte. C'est dans le texte, donc il y a ce cercle qui sont inscrits cette fois-ci en bleu, et donc la glu obscure, les bêtes venimeuses viennent contre notre liberté ontologique, notre mémorialité, pour créer une liberté, un espace de liberté orgueilleuse humaine, un choix de liberté subjective. Alors vous dépendez, vous rentrez dans la dépendance à l'élan des profondeurs, le puits est profond. Et vous êtes donc sensible à la liberté du mal et du métapsychique. Vous rentrez dans un isolement par rapport à l'univers, par rapport à la famille spirituelle humaine, par rapport à la paternité créatrice de Dieu. Et du coup, vous rentrez dans une insatisfaction de votre liberté et vous rentrez dans une frénésie, si je puis dire, de liberté autoproclamée. Vous cherchez l'autonomie et vous oubliez votre liberté divine, humaine, normale. Ce qui produit du coup en vous une nouvelle source à votre liberté intérieure humaine, non pas dans le monde spirituel de votre âme, ni de votre substance, ni la présence paternelle créatrice de Dieu. Les nouvelles sources seront le concupiscible, l'irascible, une certaine haine du monde spirituel, le refoulement des lois éternelles, des lois de la conscience, des émanations de la conscience d'amour, et enfin le refus, le rejet de la communauté. Vous avez compris, donc, je viens faire le cercle ici, infernal, des grandes profondeurs de la liberté subjective. Pour y échapper, eh bien, il y a le cercle extérieur pour revenir dans la liberté ontologique. Et voilà l'exercice d'Agapé de Bateau surnaturel numéro 1. Page précédente. Que notre oui adulte soit le oui divin de ma liberté. Je rechoisis le oui divin de ma liberté. Je rechoisis le oui divin. Allez, ah oui, je vous dis, redis oui de mon oui primordial, humain, libre, présent à toute chose. Et voilà, il va y avoir donc ces grands choix, des retrouvailles de la conquête de l'un en Dieu et de l'unité à travers moi, de tout ce qui existe dans la liberté spirituelle du oui. J'aime et je devine en le contemplant ma liberté divine originelle pour être réceptif à sa puissance. Je choisis d'aimer. Je choisis ce mouvement éternel d'amour que je suis et je choisis de l'aimer. Ce mouvement éternel d'amour qui est dans mon oui originel et que je suis encore aujourd'hui dans le goût de sang, dans toutes les parties de mon corps spirituel actuel, je choisis de l'aimer. Je choisis de l'aimer, je choisis de le deviner spirituellement ce qu'il est encore, de le contempler, de réadmirer ce qui m'a été donné. d'être réceptif à la force de sa puissance et de le réactuer. Dans les 9 réactuations qu'on avait fait ce matin. J'ouvre mon espace de petitesse dans le oui divin de ma liberté reçue. Pour le multiplier autant de fois que je suis multiplié en mes cellules de mes demeures d'adultes. Et oui, bien sûr, à cette fois-ci, c'est 7000 milliards de fois que le Saint des Saints est là. Et en fait, il y a une seule liberté spirituelle. Parce que ces 7000 milliards de lumières sont en fait une seule lumière. Hein. C'est simplement une diffraction dans toutes les cellules de mon corps. J'ai nommé ma mémoire ontologique. C'est vrai que mon corps originel il est là physiquement et de l'intérieur. Voilà, si on fallait le regarder métapsychiquement, on verrait 7000 milliards de lumières. Voilà, c'est pour ça que Sri Aurobindo préfère qu'on fasse la régression pour qu'il n'y en ait plus qu'une. Et nous, on n'a pas besoin de ça. On sait que c'est la lumière spirituelle de ma mémoire ontologique qui fait ces 7000 milliards de lumières. C'est exactement la même. Donc j'ouvre mon espace. Pour ça, il faut que je devienne extrêmement petit, minuscule, 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 minuscule dans mon oui divin, dans mon oui divin, dans ma liberté, où Dieu dit oui, dans la plus petitesse de ma petitesse, de mon corps originel, actuel. Et je le réinstalle autant de fois que il y a que le Saint-Esprit est présent dans mon corps actuel d'adulte. Pour que ça se multiplie, que ça se multiplie, que ça se multiplie, que ça se multiplie. J'unis ma liberté spirituelle à ma liberté surnaturelle. Je fais ainsi l'unité de tous mes oui divins de liberté acquiescente, consentante, gratuite depuis mon enfance. Et de mon don dans le monde du roi divin. Donc, ma liberté dans l'ordre du oui, je vais la plonger dans le oui divin du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs, du nom hypostatique de Jésus. Je vais m'engloutir, aller dans l'au-delà de l'unité des deux. J'aime bien, j'espère que vous aimez bien cette expression. Je m'engloutis dans le oui spirituel de l'autre, pas pour m'y arrêter, mais pour aller dans l'au-delà de l'unité des deux. Pour aller dans l'au-delà de l'unité des deux. Parce que les deux, parce que c'est pas fusionnel, donc les deux, c'est une communion. Donc c'est tout de suite l'au-delà de l'unité des deux. Le couple, c'est fusionnel. Le spirituel, c'est toujours trinitaire. Il y a toujours l'au-delà de l'unité des deux, dans le troisième. Donc, j'unis mon oui divin actuel au oui divin de Jésus. Je peux le faire avec le oui divin de l'Immaculée Conception aussi. Hein. C'est ce qu'on avait fait, vous rappeler le mois dernier. C'est certainement beaucoup plus facile. Mais il faut commencer avec Jésus. Donc je vais être très très réceptif à ce oui nouveau de ma liberté surnaturelle chrétienne dans l'océan de l'union hypostatique du Christ. En redisant ce oui et en écoutant la paternité éternelle de Dieu la recréer d'une manière nouvelle dans le oui du Christ au premier instant de son incarnation en Marie. Souvent on le dit d'ailleurs... et le Verbe est devenu chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles. C'est l'instant de l'incarnation, hein. Mais de le dire Et il faut s'y mettre, le dire, le contempler, s'y engloutir, s'y unir et aller dans l'au-delà de l'unité des deux. À ce moment-là, Jésus a dit oui, hein, oui, extraordinaire. Et de contempler ce oui, de le repérer, d'en ressentir, oui, de deviner. D'en percevoir l'amplitude, la force, l'intensité, qui est en fait, n'oublions jamais quand même que la liberté spirituelle, la troisième puissance de la vie spirituelle, la memoria dei, hein, en nous, est une liberté spirituelle, par définition, évidemment. Et que c'est la seule des trois puissances qui nous met en égalité, c'est-à-dire au point de vue de la puissance spirituelle avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est un être pur, purement spirituel. Et donc, il est purement libre, spirituellement. Et nous, nous sommes spirituels, purs, parce que nous sommes purement libres, spirituellement. Donc, notre liberté spirituelle, nous sommes aussi libres, spirituellement, que Dieu. Nous n'avons pas la même puissance, évidemment, contemplative que Dieu, évidemment. Ni la même puissance d'amour que Dieu, évidemment. Mais si on est aussi, si on n'était pas aussi libre que Dieu, la communion des personnes avec Dieu, ce serait impossible. Et donc la limace est moins libre que moi, il ne peut pas y avoir de communion personne entre la limace et moi. Donc liberté dans l'ordre du don à égalité, pour qu'il y ait contemplement, pour qu'il y ait une grâce d'affinité entre les libertés, pour qu'il y ait communion des personnes. Voilà pourquoi la liberté spirituelle, le oui du Christ dans son union hypostatique, est en affinité avec le nôtre. Mais il faut voir aussi qu'il est surdimensionné en raison de sa grâce capitale, en raison de la grâce surnaturelle capitale, source de toutes les grâces, de tous les temps, tous les lieux et toutes les gloires. Alors oui, mais dans sa puissance nue de puissance spirituelle humaine, il est en affinité avec nous. Alors, je veux très bien, dans la communion des personnes, percevoir le oui naturel de la puissance spirituelle, de la liberté, de la nature humaine de Jésus, elle commence à apparaître, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est le oui de son union hypostatique. Mais c'est génial d'ailleurs qu'il y ait les deux en même temps, parce que du coup, il y a une recréation dans l'au-delà de l'unité des deux, de mon oui originel actuellement, dans un oui qui est originel et surnaturel. La liberté devient chrétienne. Je fais ces actes-là. C'est des actes qui ne sont pas difficiles à faire, vous savez, hein, finalement. Les actes de communion. Je regarde donc avec cette liberté gratuite et éternelle les visages de chacun, des hommes de la terre et du ciel, pour une grande communion dans l'unité des libertés divines consentantes. Oui. Vous l'avez donc en bas, on vient de faire le parcours ici, être réceptif au oui de nouveau de ma liberté chrétienne dans l'océan de oui de l'union hypostatique du Christ. Du coup, j'oublie, je m'oublie moi-même dans ma liberté subjective du moi. Hein, et du coup, ben forcément, je retrouve une nouvelle liberté spirituelle surnaturelle. Ma memoria dei, et du coup je suis réceptif à tous les oui spirituels, des libertés spirituelles, de toutes les âmes largement ouvertes à cette liberté spirituelle, dans le corps mystique, de ceux qui ont l'âme largement ouverte à la oui spirituelle, dans le roi des rois, seigneur des seigneurs, la paternité de Dieu. Allez, je regarde avec cette liberté gratuite et éternelle les visages de chacun des hommes de la terre et du ciel. Et du ciel. Hein.
Je crois qu'il faut chanter un petit coup parce que tout le monde s'entend.
Tout le monde même, c'est pas grave. Mais c'est normal qu'il y ait des fuites métapsychiques dans la surdité. Hein. Voilà, c'est normal. Je regarde cette liberté gratuite et éternelle, les visages de chacun des hommes de la terre et du ciel, pour une grande communion dans l'unité des libertés divines consentantes. Je prie quelques instants pour qu'un oui divin me transforme plus divinement encore dans le silence d'un Dieu qui se donne sans mesure. La liberté du don, et dès que ça devient surnaturel, je suis dans le Christ, alors du coup, la don, la paternité du Saint-Esprit va se donner à mon oui spirituel dans la liberté du don, mais cette fois-ci sans attribution. Et c'est là que ça commence à rentrer dans la surabondance et la pauvreté. Je m'y abandonne comme un enfant, lui seul, avec le bruit perceptible d'une présence qui me dépasse, en me recueillant lui-même tout divinisant, rendant l'esprit d'enfance, et donc je vis de l'union, des dons de la vie, dans une séparation hors du champ des dons de la terre. Je rentre dans l'union qui me met en présence du consentement éternel de mon oui, dans mon oui actuel du temps. Et cela redonne à ma liberté sa fécondité indestructible et universelle. Prendre chaque jour une minute pour chacun des sept moments de ce chemin, jusqu'à ce que la présence de ma liberté spirituelle ontologique devienne évidente. La première fois que je le fais, je rentre dans un coma de surdité immédiate. La deuxième fois que je le fais, je dis tiens, il y a peut-être quelque chose. La troisième fois, jusqu'à ce que ce parcours il là, vous l'avez dans le tableau, à ce moment-là, vous échappez à la régression psychique de la mémoire qui vous donne la tentation, surtout quand il y aura l'ouverture des temps et l'avertissement, il y aura la tentation de surintensifier la liberté ontologique dans le monde subjectif du psychique, et ça deviendra une liberté ontologique métapsychique, et là vous êtes à, on peut dire substantiellement, dans les bras donc du corps mystique de l'Antéchrist. Donc il ne faut rien écouter des choses de la terre, ni les blessures, ni les machins, les trucs subjectifs, rien. Tout écouter de ce qui est du oui. S'habituer à rentrer dans le oui des êtres les plus purs de toute la surface de la terre. Sur la surface de la terre, les âmes les plus ouvertes, les plus libres, les plus pures, les plus réceptives, les plus surabondantes et les plus pauvres à la fois. Là où la pauvreté, la surabondance du oui dans le oui divin font un flux et un reflux continuel. Et faire ça à côté, en présence de celui qui souffre, d'accord, pour que la communication se fasse et qu'il sorte de son obsession névrotique, psychotique, pour fuir tout le temps en se retournant sur lui-même en disant « il faut que je guérisse mes blessures » et que surtout Jésus vienne guérir mes blessures. Laisse tes blessures, hein. Jésus, quand il est ressuscité, ses blessures étaient encore là. Je suis désolé. Mais elles sont devenues glorieuses. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Thank you. Nota Bene. Lorsque Dieu nous crée, aussitôt nous partons dans la liberté du don. Si vous voulez savoir, ça dure 40 jours. Après, 19 jours à fond, 40 jours, assez fort. Il y a une perception aussi du monde, de l'intériorité angélique dans leur dans son oui. Ça explique beaucoup de choses sur la splendeur de l'âme dans le visage d'un bébé d'homme et la splendeur du visage dans le bébé d'un phoque. Hein. Et ça explique aussi beaucoup la manière différente sur le plan embryologique dont les cellules se multiplient. Bizarre. C'est pas du tout le même phénomène de multiplication mitotique. Une chose est sûre, c'est ce que par exemple Mancuso qui avait découvert ça en Italie en 1914, 13-14, que l'embryon lui fait un bure qui multiplie dans son oui spirituel, ontologique, en présence de tout, de cette intériorité créatrice, paternité de Dieu dans laquelle il est mis dans un oui qui perdure, bien sûr, qui se multiplie finalement en quantité, pas en intensité, mais en quantité, dans la lumière, l'amour, dans la conscience d'amour qui est très très forte, très, très ravissante, très étonnante. L'état de commotion admirative est très grand, alors. Et cette envie de donner se traduit même sur le plan donc du corps embryonnaire, si bien qu'il déleste les cellules de son corps, habité par sa manière à lui de s'exprimer dans la mémoire d'Adélie, il déleste des cellules staminales embryonnaires dans le corps de sa mère. Et il en déleste beaucoup. Ces cellules staminales embryonnaires ont une durée de vie d'environ entre 45 et 47 ans, enfin 43 à 47 ans, entre 40 et 50 ans disons, de vie. Donc les mères, notre maman, votre maman, pardon, les mamans qui sont ici, elles portent encore les cellules vivantes et puis la même, qui sont en lien, parce qu'il y a un lien. Il y a quelque chose de métaphysique dans la mémoire ontologique. La lumière demeure, elle est encore vivante avec chacun de ses enfants. Ce n'est pas de son ADN à elle. Et c'est l'âme de la mère qui continue à faire vivre la mémoire spirituelle dans ce corps spirituel originel de chacun de ses enfants. Donc elle est en base communiquant physiquement et ontologiquement avec chacun de ses enfants. 50 ans après leur naissance, s'ils sont morts en fausse couche. Et bon, c'est une des raisons, scientifiques, si vous voulez, ou métaphysiques, pour lesquelles ils ne peuvent pas aller au ciel, puisqu'il y a encore des cellules vivantes de leur corps. Hein. Voilà. Et hors l'âme, hein, lorsqu'elle est séparée, par exemple un avortement, etc. Bon, puisque le concile de Vienne a dit que l'âme spirituelle est la forme substantielle du corps, comme le corps est encore vivant dans les cellules staminales embryonnaires dans la maman, c'est bien logé dans la moelle osseuse, et en dessous du névrax, c'est la mère. Hein. Donc la moelle osseuse, c'est là ce qui produit le sang. Hein. Du coup, y a, à chaque fois que la maman va vivre quelque chose, dans son oui surnaturel, dans son oui spirituel, dans son oui, mais dans son oui universel, dans son oui dans l'au-delà de son union avec l'Immaculée Conception, dans son oui du corps mystique vivant du Christ, de la Jérusalem spirituelle et céleste, et dans l'au-delà de ce oui, à chaque fois, bien sûr, elle peut intégrer explicitement et librement chacun de ses enfants dans cette assomption, dans cette émanation. dans cette liberté, dans cette création nouvelle. C'est comme ça qu'elle nourrit spirituellement un enfant qui est mort. Et l'enfant d'ailleurs continue à grandir, puisque c'est l'âme, donc, quand il devient, est la forme substantielle du corps. À raison de quoi, avec le temps, à cause de l'existence de ces cellules staminales encore vivantes, l'âme, du coup, continue à grandir. Donc, si vous voyez un jour votre enfant dans une apparition, si c'était il y a 10 ans, son âme a la forme de son corps de 10 ans. Parce que l'âme, c'est la forme substantielle du corps. Et les cellules staminales embryonnaires, qui sont dans le corps de la mère, ont 10 ans. Hein? Vous savez, toutes les études qui sont faites sur les champs morphogénétiques de l'ADN, et donc qui pose les structures du développement morphologique avec son déploiement dans la durée. Donc la durée d'une cellule staminale embryonnaire, elle est vivante et elle fait et elle explique pourquoi l'âme, qui est la forme substantielle du corps, a la forme de l'enfant. C'est extraordinaire cette constatation. La découverte des cellules staminales embryonnaires, le professeur Mancuso. Oui. Les cellules staminales embryonnaires, Mancuso. Alors, c'est inouï, ça prouve bien. On a donc ici, si vous voulez, une espèce de preuve théologique il suffit d'une seule cellule vivante embryonnaire avec un seul ADN encore vivant pour que l'âme prenne la forme d'un corps complet vivant. Non, laisse les photos métapsychiques, s'il te plaît. Bon. Non, je ne parle pas des photos ésotérico-médiumnico-métapsychiques. Non, je parle des découvertes du corps. Bon, c'est récent, ça, c'est quand même beau de savoir ça. C'est grand de savoir ça. Bon. Alors, il a 20 ans, mais l'enfant, s'il vous apparaît, il a 20 ans. L'âme, pourquoi ? Parce que l'âme a la même forme que le corps. Hein. Mais ce qui lui donne la même forme que le corps, c'est les champs, les structures des champs qui sont inscrits dans le génome. Vous savez, celui qui a eu le prix Nobel pour la découverte des structures morphogénétiques de l'ADN d'une mouche. C'est ça qu'il a découvert. Hein? C'est ça qu'il a découvert, il a reçu le prix Nobel à cause de ça. Une belle, magnifique découverte, ça, aussi.
Notre existence,
elle est liée au corps, à l'âme et à l'esprit.
Donc une seule cellule.
Une seule cellule, tu es vivant.
Même si tu veux, c'est pas mort, c'est-à-dire c'est un enfant.
Et par exemple, tu meurs. Exemple, tu meurs. Tu meurs. Alors, cliniquement, encéphalogramme plat. Le cœur ne marche plus. Ça fait déjà 24 heures. Mais ton âme est encore là.
Donc, la mère ne sera
tu passes au four crématoire. Ton âme va brûler. Parce que qu'est-ce qui ressent le feu quand ça fait mal, le feu ? C'est l'âme ou c'est le corps ? Un corps qui est mort, il n'y a plus d'âme, il ne ressent rien. Mais quand l'âme est encore dedans, ça brûle.
C'est horrible.
La mort réelle, c'est quand l'âme a quitté totalement son unité substantielle avec le corps. Et le lieu de l'unité, c'est pas le cerveau, c'est pas les organes, c'est pas le cœur, c'est pas le cerveau, c'est pas le cérébral, c'est la mémoire ontologique. Et le lieu de l'unité, c'est là, vous voyez, c'est pour ça que c'est moi je trouve ça formidable, mais la négation du corps et de la mémoire dit fait qu'on arrive à des aberrations du style ah ma maman est morte, puis je le mets au four crématoire.
3 jours. Il reste 3 jours.
Mais là, tu sais, il y a des gens qui se réveillent, qui reprennent vie dans le cercueil 12 jours après.
Comment on sait?
Mais c'est pour ça qu'on a, c'est pour ça que nous, on a toujours mis les gens dans un cercueil. On sait, pour respecter quand même.
Mais si on peut pas,
ils en ont trouvé qu'il y avait gracié dans le cercueil.
Écoutez, c'est une autre question. Vous comprenez bien que c'est pas ça que je veux dire. Je dis, quelqu'un est mort pour le médecin, il n'est pas mort en réalité.
Oui, la mort clinique n'est pas...
La mort clinique n'a rien à voir avec la mort réelle. Je ne vais pas dire que la mort réelle n'existe pas. La mort réelle existe parfaitement. Mais il faut attendre. Quelquefois, c'est extrêmement rapide si c'est un saint. Tout de suite. Il a appelé tout de suite à la vie éternelle. Le vol de l'esprit est immédiat pour un saint qui meurt. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un saint,
on reste dans le trou du quand on nous enterre.
Quelqu'un qui n'est pas un saint, ne vous inquiétez pas.
Alors, quelqu'un qui n'est pas un saint,
quelqu'un qui n'est pas. Mais son âme est encore là. Enfin, voyons. Ah oui, mais cliniquement, il est mort depuis 48 heures. Il faut vraiment être d'une insensibilité inouïe pour ne pas percevoir qu'il est encore là.
Vous voulez répéter le moment de la mort alors?
C'est variable pour un quelqu'un qui part tout de suite parce que sa place est dans le corps spirituel venu d'en haut. Son corps spirituel part presque, on pourrait dire presque avant la mort clinique. Alors, c'est ça qui provoque la mort clinique justement. Là. Donc, mais tandis que d'autres, ça va varier de 3 heures à un mois.
Les
amérotes sont mortes.
Et quand le corps est pourri, vous croyez qu'il reste encore dedans?
Hein?
Même après quelqu'un qui est mort, le corps commence à pourrir. Moi, si mon mari meurt avant moi, je reste avec lui pour pas qu'il soit tout seul. Il a commencé à pourrir après.
Oui, parce que les organes se décomposent.
Mais il reste quand même dedans, même si ça pourrit.
Mais tant qu'il y a encore des cellules, tant que l'ADN est encore vivifié de l'intérieur, vous pouvez être sûr qu'il y a encore la vie, donc l'âme est encore là.
Mais jusqu'à nos 50 ans, on a de l'ADN vivifié, du coup, dans les cellules spindales.
Je ne sais pas tout. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas tout. Je dis, faites attention. Ne dites pas qu'il est mort. Dites, je suis un être humain. C'est un être humain. C'est mon ami. Je l'aime. Donc, je le respecte. Et je suis en présence de Dieu. Et lui aussi. Nous allons ensemble prier et aller dans l'au-delà de l'unité spirituelle de nos deux présences spirituelles dans le corps encore présent et toujours vivant. Et je vais prier et il va du coup nous allons nous mettre dans le oui de l'union hypostatique qui s'accomplit dans l'union hypostatique de Jésus qui s'arrache par l'âme dans la gloire de la croix glorieuse en se glorifiant dans son âme et puis qui emporte dans tous les fruits des mystères eucharistiques de tous les temps son âme éventuellement. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, je me rappelle très bien une fois, j'ai été... Ça, c'est pour dire, il faut avoir quand même quelques principes sur la présence à un mort, la présence à un mourant, la présence à un mort. Comment ça, quelqu'un qui vient de mourir est mort, Vous êtes sûr de ça? Moi, je suis sûr que non. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église dit attendez donc 3 jours, et puis nous prions pour lui. Quand on prie pour lui, il est encore là.
Est-ce que c'est pour ça qu'avant, dans l'Église, on veillait les morts après
Bien sûr, on veille les morts parce qu'il est là.
Il y a une prière pour ça. J'avais eu âme rejoint.
Et bien sûr, il a pris leur recommandation de là.
Lundi, à l'hôpital maintenant, quand ils les mettent au froid, au frais, tout de suite,
ça passe. Oui, non, mais de toute façon, les horreurs d'Auschwitz, etc., je ne veux pas parler des anomalies, je veux parler de ce qui est bien.
Non, je ne parle pas des horreurs d'Auschwitz, je te parle de mon mari. Il est mort à l'hôpital. Eh bien,
c'est bien, je suis allé voir. Oui. Hein? Je suis allé voir Jean à l'hôpital. Alors écoutez, là où il était aussi, dans le froid. Alors, donc,
oui, bon, bah alors.
Et le froid, c'est pareil? Non, mais là, ma froid.
Ah bon? Mais...
Eh bien, l'âme, enfin, elle sent tout.
Alors, elle est gelée, donc elle a froid.
Ça dépend où elle est.
Il faut pas au stade de...
Enfin, bon, il est mort.
Ne me faites pas dire des choses que je ne sais pas. Je sais qu'elle est là. Elle est la plupart du temps dedans. Ça va? Assez souvent à côté. Vous savez, comme une partie mélangée.
Comme dans les films, en fait.
Mmh. Comme dans l'autre.
Madame Safreux, vous savez comme ça.
C'est quand on entend les témoignages des NDE, ils disent bien qu'ils passent un moment 4 mètres ou 5 mètres.
Oui, mais c'est leur conscience. Leur conscience individuelle est transplantée dans la partie métapsychique de l'âme.
Oui.
C'est la partie métapsychique de l'âme qui sort.
Ah, d'accord.
La partie ontologique, la partie spirituelle, elle reste dans leur corps, vous savez.
Ah, ok.
Donc, ils ne vont pas partir en astral comme ça. En vrai, quand nous accueillons, on avait plein de... Il y avait une Martine, je me rappelle Martine, elle avait tellement pris de défense, sa pauvre fronte, que de temps en temps, elle partait en métapsique, comme qui rigole, en cosmique, alors juste elle était partie, oulala, elle avait quitté la galaxie, partie dans une autre, troisième. Mais pour revenir, Tintin, vous comprenez, hein, il y en a qui se mettent à 4 mètres, il y en a qui vont plus loin. Hein. Alors, bon, quand on faisait le trip pour la réaccompagner, la faire remettre, la faire revenir, c'est, on appelait ça le. On accompagnait quelqu'un en trip, faire un accompagnement, ça durait 4 heures hein, avant de faire revenir quelqu'un. Parce que, mais elle, Martine, elle était partie pour aller la retrouver où elle était, c'était pas commode. Elle disait, des angoisses, pas possible, c'est pas possible. On arrivait à savoir où, mais on pouvait pas savoir. Donc c'était très difficile de refaire le chemin du retour. Voilà. Alors, ce qu'avait fait. Le Jojo, là, puisqu'il était habitué à aider les gens comme ça, il savait ce que c'était, donc il a dit là, c'est pas possible pour qu'elle soit allée si loin, c'est qu'elle est partie en astral avec des puissances intermédiaires qui l'ont embarqué vachement loin, quoi. Alors il a fait juste un exorcisme, le sang de Jésus. Il a dit, elle est revenue, elle était là. Et quelquefois, même sans les puissances intermédiaires, vous partez. Votre conscience de vous-même part avec une partie animée d'ailleurs de votre forme humaine au-delà de votre corps physique. C'est pas une séparation. C'est comme quand vous prenez du fromage de gruyère fondu, vous le sortez de la marmite, et puis ça fait vite, mais votre fromage de gruyère est là-haut, si vous voulez, d'accord? Et puis bon, lâchez le fromage de gruyère, faites attention, s'il est trop loin, il ne va pas revenir dans la marmite. Donc, il faut quelqu'un pour l'aider, faire revenir dans la marmite. C'est tout. Voilà. C'était ça le travail, hein, quand c'est de l'accueil, était français, c'était pas facile. Hein. Enfin, c'était pas facile ici, si, c'était facile en fait. Mais bon, c'était, on perdait beaucoup de temps finalement. Bon, mais on perdait pas beaucoup de temps parce que bon, ça, ça permettait quand même de comprendre énormément de choses aussi, hein, c'est vrai, sur le plan humain, philosophique, physique, et puis même aussi spirituel, c'est évident. Voilà. Donc, je reviens, donc, le corps est là. Donc, je reviens sur les cellules staminales. Vous comprendrez, vous avez compris maintenant ce que c'est une cellule staminale. Cellule staminale. S-T-A-M-I-N-A-L-E-S. On emploie beaucoup ce mot biologique pour d'autres, sous d'autres acceptions en médecine, hein, en mode cellule staminale. Mais là, on emploie, mon cousin a appelé ça cellule staminale embryonnaire. C'est quoi une cellule staminale? Cellule staminale, dans le langage que nous employons ici, ce qui est plus philosophique, c'est que médical, c'est une cellule donc, qui a l'ADN d'une personne. Et chaque personne a un ADN unique au monde, bon, sauf s'il est jumeau homozygote, bien sûr. Pas. Donc il y a un ADN qui est unique au monde, qui est vivant, et qui est vivant dans le corps de quelqu'un qui a toute autre identité de mémoire génétique, ontologique, dans la mémoire ATI. Ça va? C'est une cellule staminale. Par exemple, l'Immaculée, aussitôt qu'elle a reçu et a été reçue, et qu'elle a été au-delà dans la transactation sonatale responsable avec Joseph de l'unité des deux, de la signification responsable de son corps féminin, bah forcément, il y a eu des cellules staminales qui n'avaient pas le patrimoine, n'avaient plus la même détermination. Génétique, la même signification génétique que sa propre cellule d'Immaculée Conception, et qui n'était pas du tout, n'a pas du tout la même signification génétique que les cellules de Sagesse. Pourquoi? Parce que c'était des séquences entières du génome qui étaient inhibées dans certaines parties, réanimées, recréées dans d'autres parties. Et si ça appelle ça, on appelle ça donc dans son corps, elle avait des cellules staminales qui n'étaient pas de son génome à elle, et qu'on appelle. Et que j'appellerai, si vous le voulez bien, des cellules staminales sponsales. Merci, madame. Mesdames. Cellules staminales sponsales. Voilà. N'oubliez jamais cette précision. Elle est très intéressante. Parce que quand le Verbe de Dieu a pris chair dans la Vierge Marie, la dernière encyclique du Saint-Père à propos de Saint-Joseph, la dernière encyclique qui est écrite à propos de Saint-Joseph, du Saint-Père, c'est, il a dit, quand le Verbe de Dieu a pris chair dans la Vierge Marie, il a pris en elle ce qui appartenait dans son corps biologique à la Sainte Famille, à son unité sponsale avec Joseph. Donc c'était des cellules staminales sponsales. Avant qu'il ait dit ça, on disait quoi? On disait que Dieu, le Verbe, a pris dans le sang, dans la corps de Marie, les cellules, les parties de son sang le plus pur. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, parce que les parties les plus pures de son sang, c'était les cellules staminales sponsales. C'est tout. Parce que je m'excuse, les parties les plus pures de son sang, comme si, au moment de l'annonciation, il y avait des parties qui étaient de son sang qui étaient plus pures que d'autres. Oui, il y en avait qui étaient plus pures que d'autres. Puisqu'il y avait des cellules staminales dans ça. Hein? Elles sont humaines, c'est physique, une cellule. Ah ben elles sont sur, bien sûr, elles sont humaines, donc, mais elles sont biologiques quand même, donc il y a quelque chose de biologique, il y a quelque chose d'incarné. Et donc, vous voyez que le point ontologique ici avait un support biologique. C'est important pour nous le respect, le sens du corps spirituel, le sens du corps spirituel habité par la liberté spirituelle nouvelle. Ces cellules stamina sponsales ont créé en Joseph une nouvelle origine de son corps.
Quand Jésus est fils de David, en fait, c'était par Joseph.
Et c'est comme ça que Jésus était originé de la race, c'est physique la race de David. Et c'est par Joseph, dans la généalogie de Saint Matthieu, dans la Genèse. Donc c'est inscrit dans. C'est en même temps confirmé par les deux évangiles. Parce que d'après mes connaissances, la Vierge Marie. Elle descendait plutôt de la tribu de Lévi. Oh, et peut-être eu des mariages entre les gens de la tribu de Lévi, de la tribu de Juda, à l'ascendance de la Sainte Vierge. Mais n'empêche qu'elle était de la tribu de Lévi. Alors, sa cousine Elisabeth était de la tribu de Lévi. L'évangile dit, voilà, donc ces cellules staminales, cellules staminales embryonnaires, cellules staminales sponsales. Et ici, exercice que nous venons de faire, cellules, si je puis dire, staminales du monde nouveau pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas une détermination, même biologique, de nos cellules de nos cellules primordiales, de notre ADN, est-ce qu'il n'y a pas même des déterminations biologiques nouvelles dans notre mémoire génétique en raison de la transformation nouvelle du monde surnaturel de notre oui dans l'oui, l'union hypostatique de Jésus? Je serais bien étonné. Et bien sûr, c'est ce qui, dans mon corps originel, va être réceptif avec l'harmonie avec mon corps spirituel venu d'en haut. Donc l'exercice qu'on a fait là cet après-midi, même si vous avez tous mis des bouquets dans les oreilles pour pas l'entendre, eh bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus important que vous ne pouvez le penser. Il faut refaire ce parcours en 7 minutes par jour, jusqu'à ce que ça devienne évident. Il est très facile ce parcours à faire, très facile. D'ailleurs, tous les exercices de climatisation naturelle sur la liberté fondamentale qui est la nôtre sont très faciles. Sont très simples. Voilà. C'est impossible de faire plus simple. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'exercice de notre liberté intérieure que nous avons fait alors que nous avions 4, 5, 6 jours de vie embryonnaire, c'était pas compliqué puisqu'on n'avait pas de cerveau. Ce qui est compliqué, c'est de quitter notre cerveau. C'est ça qui est compliqué. Mais la mémoria, le plus intime de mon intime, ce qui est inscrit dans l'intime de mon intime, respire à nouveau. C'est le oui de mon enfance qui a une dimension intérieure, d'une intériorité, d'une dimension qui est aux mêmes dimensions que la créature de Dieu, présente dans la grande profondeur du oui de toutes les autres existences qu'il est en train de créer. Je ne sais pas si vous voyez l'immensité de la présence de ce oui dans mon âme. Et que je puisse reprendre sa possession de mon oui, de ma liberté, de ma mère Moria, de l'intime de mon intime, de l'inscription de la paternité créatrice de Dieu dans ma chair, dans mon acquiescement, en consentement avec son acquiescement pour le don du Verbe illuminant toute chose et tout être. À un moment, il vient à l'existence en ce moment. Et on est en affinité immédiate avec le oui d'union hypostatique de Jésus. Et à cette recréation, à cette sanctification, à cette surnaturalisation chrétienne de ma liberté spirituelle dans des actes où je vais me nourrir de l'unité de l'un dans l'union hypostatique de Jésus. Et cette union hypostatique de Jésus elle-même qui dit oui sur la croix à l'union du Verbe de Dieu et du Saint-Esprit dans le dépassement de leur communion dans la passivité substantielle ancrée éternelle de leur propre personne dans la déchirure, l'union hypostatique de Jésus sur la croix, celle qui fait émaner immédiatement le oui d'Immaculée Conception, dans laquelle je me conjoins à mon tour. Et ici, je mets mon oui, le oui de l'union hypostatique originelle de Jésus, dans le sang de l'amour du cœur immaculé de Marie. Et je suis immédiatement transplanté dans l'inscription du livre de vie. Et je touche physiquement, lumineusement et objectivement la présence de mon corps spirituel venu d'en haut, et je me mets en harmonie avec lui. Voilà, j'ai fait le parcours du cercle qui permet de sortir de la liberté spirituelle, se rabougrissant dans les profondeurs, et qui risque, c'est pas un risque, c'est presque une, de tomber dans la compensation du mental cellulaire, du oui, métapsychique de l'Antichrist, après l'ouverture du cinquième sceau de l'Apocalypse. Qu'est-ce qui va se passer lorsque il va y avoir l'avertissement dans quelques jours? On va quand même finir par y venir, on verra ça. On verra ça plutôt demain. D'un seul coup, ça ne va pas venir progressivement. Hein. Ce ne sera pas progressivement. C'est d'une seconde à l'autre. Il n'y a pas de préparation progressive. C'est comme la créature de Dieu. C'est à partir de rien, tout d'un seul coup. D'un seul coup. Pour tous les hommes, hein, on est 7000. Paraît-il 7 milliards, il paraît que c'est pas vrai. On m'a dit, ça m'a fait plaisir d'ailleurs, de savoir que c'était pas vrai. C'est un démographe qui m'a dit ça. Enfin, aucune espèce d'importance, on serait beaucoup moins. Bon. On a gonflé énormément la population chinoise, on a gonflé énormément, mais exprès. Voilà, on a multiplié les...
C'est la faute de l'autre.
supposons qu'on soit 7 milliards, je m'en fiche complètement, ou 5, c'est un mec complètement égal, tous sans exception, ça, il y en a qui sont à minuit, d'autres sont à midi, tous au même instant, exactement comme ça s'est produit déjà une fois dans l'histoire de l'humanité.
La tour de Babel.
Pendant une demi-heure, ça a duré, la tour de Babel. Tous les hommes de toute la terre, pas les anthropoïdes sans âme spirituelle, hein. Tous les hommes de toute la surface de la terre ont été suspendus dans une torpeur paternelle créatrice de Dieu pendant une demi-heure. Quand il s'est redescendu de cet état de torpeur, chacun s'est retrouvé avec son génie propre, avec sa culture propre, avec sa langue propre. C'est comme ça que sont nées les nations. Hein. Vous avez un peu cotisé pour vous acheter une Bible, si vous voulez. Donc,
Genèse 11:9.
Bien sûr, c'est facile, c'est les 11 premiers chapitres de Genèse, ça se termine par. Bien sûr.
C'est la même date que le tour de Babel.
Le 11 septembre. Oh, écoute, arrête avec ça. Non, mais avec vos cristallisations, vos déplacements, vous me fatiguez. Hein. Alors, bon. qu'on n'entend pas, qu'on n'entend pas. Alors donc, on continue. Et puis en plus, c'est compulsif, vous remarquez. Hein. D'un seul coup, la présence créatrice paternelle de Dieu, qui s'est réalisée dans le premier moment de votre existence, par amour, par grâce, va s'ajuster à votre conscience actuelle, va déborder jusqu'à votre conscience actuelle. Et vous allez avoir dans votre perception, dans votre conscience, dans votre lumière, dans votre vision de vous-même et des choses et de Dieu, la même lumière, exactement la même que celle que vous aviez dans les 40 premiers jours de votre existence. La même. Là où il n'y avait pas de cerveau, là où il n'y avait pas de possibilité de faire... de jugement d'existence, d'actes de contemplation personnelle et d'actes d'amour personnel. Pourtant, il y avait en même temps lumière et amour, mais à l'état passif, c'est tout. D'accord, c'est... Donc tout ça, alors, et puis en même temps, avec cette perception, bien sûr, que tous les autres vivent ça en même temps, puisqu'on le verra aussi, comme lorsque nous a créé, on était en présence tout à fait consciente, lumineuse, libre, disponible et amoureuse, passive, de tout ce qui était présent dans les grandes profondeurs du oui, de ce que le Père crée en même temps que nous. Alors, il crée tout, donc voilà. Donc, voyez ça, c'est ce qu'on a vu. Hein, quand vous refaites les exercices de matière sonatale, vous voyez en très très clairement, parce que l'exercice est tellement naturel qu'on ne peut pas ne pas le voir. Surtout quand on le fait dans la manière dont l'Immaculée Conception l'a fait, alors là, c'est sans ombre. Alors, et alors du coup, on va voir ce qu'on est aussi dans l'état adulte avec ça, avec cette lumière. Donc, on va voir donc tout le mal du refus du oui, et puis la régression métapsychique, tout ça, toute cette diabolisation, tout le mal qui se fait dans le monde entier à cause de nous.
Juste, s'il vous plaît, juste la régression métapsychique, c'est quand l'esprit se régresse et du coup se rétracte, et c'est l'espace entre.
Oui, quand tu ouvres les chakras, etc., tu rentres en médiumnité, en divination, en automatique, en tout ce que tu veux, en cosmique, oui, oui, par exemple aussi. Il y a mille trucs en régression métapsychique. Hein. Attends. Ne t'inquiète pas. Je dis oui à mon cœur divin, je dis non à mon cœur humain, je dis non à l'inquiétude de mon cœur humain, je dis non à la part de mon cœur humain, je dis non. 21 fois, il faut se faire les 21 noms. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait l'exercice de l'attention à la mémoire, d'abord, il faut d'abord faire l'exercice de la reprise en main du non à mon cœur humain. Sinon, j'entends pas. L'exercice, oui. Non, ne t'inquiète pas. Donc, d'un seul coup, voilà. Ça va durer environ 7 minutes. Ça. Mais ça va être, il y aura beaucoup de mouvements quand même, je veux dire intérieur, je veux dire c'est des considérations. En même temps, il ne faut pas quand même pas oublier que ce sera pas, ça va pas faire naître en, en nous la honte, c'est spirituel. Ça va pas faire naître en nous la névrose, puisque c'est spirituel, ça va pas faire naître en nous le dérive négative du conscience de culpabilité, puisque c'est spirituel, c'est pas psychique. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Alors, quand on est dans le, quand on est dans les bras de la lumière du Père, tu vas t'inquiéter. Quand tu passes dans la cinquième demeure, que ta larve devient d'un seul coup papillon, et quand tu te réveilles de ton oraison, que tu as fait le passage à la cinquième demeure, est-ce que pendant les 20 minutes de ce passage qui t'a semblé, tu ne sais même pas s'il a duré une demi-seconde ou 3 heures, en fait il a duré 20 minutes, est-ce que tu, dans ce passage où tu as éperdu, où tu es sorti de la succession des instants présents, est-ce que tu as eu de la souffrance?
Non, pas du tout.
Ok, merci. Alors voilà. Si tu rentres dans une durée spirituelle, de liberté spirituelle, totale, dans la présence paternelle de Dieu. Et c'est dans cette lumière que tu vois ta vie aussi. Bien sûr, tu la considères, c'est une espèce, c'est pas tout à fait un jugement particulier. Un jugement particulier, ce qui se passera au jugement particulier quand on sort de la dernière cellule vivante de notre mémoire ontologique, donc très longtemps après la mort clinique, eh bien, il se passe une vision, bien sûr, de notre vie qui ne procède pas du tout de la même grâce, de la même manière, vous voyez, c'est pas la même chose. La cinquième demeure et les jugements particuliers ne sont pas la même chose, enfin, pas du tout, en même temps. Mais bon, on n'est pas là, mais c'est pour dire, voilà, voilà ce qui va se passer. Et, bon, de toute façon, on y revient demain, puisqu'on va faire, les exercices. En question qui correspond. Et ça veut dire que par grâce de Jésus, par grâce chrétienne, par grâce du ciel de la rédemption, par grâce de l'Église aussi, hein, par la grâce des saints innocents surnaturalisés et justifiés par le fruit du sacrement dans lequel on les a engloutis pour qu'ils nous obtiennent cette grâce inouïe de l'ouverture des temps. Dans l'avertissement, c'est un petit peu à quand on le devra, et ben voilà, on va avoir cette lumière là et on va voir la vérité de notre liberté, de notre oui. Bon, c'est sûr que ce ne sera pas pour tout le monde une très grande, l'origine d'une très grand sentiment de valorisation.
On ne sera pas très valorisé.
On ne sera pas malheureux, on sera content, on a déjà dit oui au Seigneur.
Quand les deux religieuses qui l'ont vécu, l'avertissement, elles avaient pleuré pendant 6 mois après.
Mais oui, mais le curé d'Ars, il a mis plus d'un mois et demi avant de terrasser. Pour sortir de ce terrassement. Hein? Bon, bien sûr, le prêtre qui a fait n'importe quoi, vous rendez compte, ce jour-là. Oh. Celui qui a jugé le prochain, tout ça. Mais on va voir que alors, il faudra redire oui immédiatement à ce oui, mais on sera bien impuissant pendant ces 7 minutes pour le faire, et c'est ce qui fera notre souffrance. On le vaut très bien, bien sûr. C'est une grâce. Mais il y a quelque chose de comparable à ce qui se passe avec bien faire cette comparaison. Et on n'a pas le temps parce que là, on fait, à cause du fait qu'on parle pendant les repas, on est obligé de faire à peu près la moitié moins d'exercices d'une session normale. Moins de temps. Mais normalement, on accompagne toujours ça de moments d'oraison. Hein. Et puis, d'explication pour faire de l'expérience. Pas seulement expliquer ce que c'est que cette troisième demeure, cette quatrième demeure, mais passer et obtenir la grâce et rentrer dans la grâce de la troisième, puis de la quatrième et enfin de la cinquième demeure. Je crois que la dernière fois, tout le monde a eu une touche de la quatrième et un petit peu de la cinquième. Là, on ne peut pas le faire puisqu'on parle. Donc, c'est impossible. Pendant les repas et tout ça. Mais c'est pour ça que c'est une session, c'est pas une retraite. C'est normal parce que j'ai pensé que ce serait bien de faire cette fois-ci quelque chose de purement philosophique. Hein. Vous sentez qu'il y a pratiquement très peu de christianisme dans ce que je vous ai dit. C'est purement naturel, ce qu'on a expliqué là. C'est la nature de l'homme. La nature naturelle. Bon, donc pratiquement, quelqu'un d'athée, il aurait pu suivre la session de A jusqu'à C. Sans aucun problème. Il n'y a que les cathos qui n'y arrivent pas. Alors donc, pourquoi? À cause des dérives de la conscience de culpabilité négative. D'accord. Négative. Donc je reviens. Quand on prie, on fait oraison pendant une demi-heure. À un moment donné, il y a un recueillement qui se fait. Même si on a les yeux ouverts, on ne voit plus rien. Et pourtant, on entend. Oui, on voit quand même des choses. On les voit, mais on n'y porte plus attention. Elles ne déterminent plus rien à mes mouvements intérieurs. On entend bien sûr les mouches, tout ce que vous voulez, mais même le moindre parole, on les entend, on sait même de quoi elles, on les entend, mais elles n'influencent pratiquement rien de mes mouvements intérieurs de mon âme. Mon âme elle-même est complètement immobilisée dans la lumière, la réceptivité, la paix, le recueillement. Le Saint-Esprit opère cette espèce d'aspiration intérieure de tout moi dans le centre de moi-même et il y a une paix. Cette paix fait que le corps lui-même tombe dans un sommeil végétatif tandis que votre âme est complètement éveillée. Quatrième demain. Et puis du coup, ah, enfin, pour une fois, le Saint-Esprit peut vous envahir et commencer à se rendre présent partout dans votre vie intérieure, dans votre esprit et dans votre chair. C'est la quatrième demeure. C'est, disons, l'état normal du débutant dans la prière chrétienne. Alors, il y a plein de gens qui vont dans les groupes charismatiques, tout ça, et puis ils vont mettre du courrier, tout ça, et puis toc, on pose les mains, ils tombent par terre. Ils tombent dans le repos du Saint-Esprit. Bon, ok. Alors, tac, ils tombent dans le repos du Saint-Esprit, et puis ils tombent comme ça. Ils se font pas mal d'ailleurs, hein, parce que. Même si c'est très violent, ils se font absolument pas mal. Et puis, pendant une demi-heure, pendant quoi, 5 minutes, que ça dépend, ils se trouvent comme ça dans cet état de recueillement, de lumière, de paix, de réceptivité. Et si le prêtre, par exemple, vient faire une bénédiction, une parole de bénédiction, etc., la bénédiction pénètre, s'envahit, envahit l'âme, prend toute sa place, etc. Alors, c'est quoi le repos du Saint-Esprit? C'est quoi? C'est, comme vous le savez, un avertissement, un châtiment, un reproche, une prophétie et une demande. C'est un châtiment parce que c'est une humiliation et un avertissement. Tu dis ça, tu vois, dans la présence de la bénédiction qui est faite, tu tombes par terre, quand Jésus a dit « Qui cherchez-vous ?» Jésus de Nazareth, il dit « C'est moi. » Ils sont tombés par terre. C'était pas un châtiment. Jésus a voulu leur redonner une pleine liberté. Hein, et, voilà. Donc quand ils se sont relevés, ils ont recommencé et c'est librement qu'ils ont pris possession de lui. Donc c'est quand même un châtiment, un reproche, un avertissement. C'est un avertissement. En disant, tu vois, ta prière, ce n'est pas la prière chrétienne. Ton oraison, il y a trop de bousculades dans ta tête. Il y a trop de bouillonnement dans ton cœur. Il y a trop de palpitations dans tes, je sais pas quoi. Il y a trop de métapsychiques, il y a trop de médiumnité chrétienne dans Mariale Céleste, dans ton âme. C'est spirituellement qu'il faut que tu sois transformé, c'est pas psychiquement. Et normalement, si tu veux savoir quel est l'état du commençant dans l'oraison, c'est la quatrième demeure. Les trois premières demeures, c'est vrai que la grâce, les sacrements, de la présence de l'Immaculée Conception en moi, de la présence de Marie, de la présence de la communion des saints, la connaissance de la joie céleste, des invasions extraordinaires, toute cette chaleur merveilleuse, ces connaissances charismatiques intérieures, surnaturelles et tout ça, viennent guérir la partie psychique de mon âme et mon imaginaire de manière à ce qu'il puisse se diluer et laisser la place à la partie spirituelle pacifiée. Les trois premières demeures, c'est pour redevenir humain spirituellement parlant. Et puis quand on est devenu humain spirituellement parlant et que l'affection est suffisamment en place dans la liberté du cœur divin, c'est plus un cœur subjectif, c'est plus un cœur humain, c'est un cœur spirituel. Alors à ce moment-là, faites encore une demi-heure d'oraison les jours suivants et vous avez la grâce de l'oraison de quiétude. Si, alors l'oraison de quiétude. Et donc Jésus vous dit, Dieu vous dit, le Saint-Esprit vous dit, l'Église vous dit, le prophète va vous dire, le prêtre va vous dire, tu vois, tu es tombé dans le repos, ça veut dire, tu n'es pas encore entré dans les quatrièmes demeures de l'union transformante. Attention, hein! C'est un reproche. C'est un avertissement. Ça peut devenir un châtiment. L'avertissement peut devenir un châtiment si on n'y obéit pas. C'est en même temps une leçon et une prophétie. C'est-à-dire, si tu veux savoir l'état dans lequel je t'attends, pour ça, moi, qu'il fasse la transformation spirituelle et surnaturelle chrétienne dans ton âme, dans ton corps et ton esprit et ta vie, alors c'est dans cet état-là qu'il faut que tu sois, sans que ça vienne de toi, c'est vrai, ça viendra du Saint-Esprit. Et là, mais tu peux faire mémoire de ce que tu viens de vivre ici, pour te mettre dans cet état-là et pas perdre de temps à aller dans les circulations de toutes sortes, dans tes saintetés auto-proclamées, métapsychiques, mysticaux, mystéricaux, dingo. Eh oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est urgent maintenant, il n'y a plus de temps à perdre, on ne va pas passer 20 ans à circuler dans des trucs pas possibles. Bon. Et du coup, effectivement, dans l'oraison, toute personne qui est rentrée dans la quatrième demeure, même si c'est le Père Joseph qui arrive pour lui mettre la main, peut-être sentirez-vous un engourdissement, mais vous ne tomberez pas. Hein? Bon, il y a des gens qui disent, moi je ne tombe pas, de toute façon je ne suis jamais tombé. J'en ai connu. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de toi. Je pensais en. Bon, peu importe. Il y a le Père Joseph qui passait, ça faisait plus de 70 fois qu'il y avait été. La moustache, c'était gros. Il dit, quelle bande de crétins, ils tombent tous. Tati, tatatata, je me rappelle. Mais c'est la seule fois de ma vie où j'étais à Medjugorje. Henri, je le connaissais, il était de Montpellier. Donc, marches, descendent, à la fin de la messe, nous on descend de l'autel, on va, bon, les gens demandent des bénédictions des prêtres qui ont célébré, patin, coffin, bon, arrivé presque au tiers de l'église, bon, je vois Henri, il était là, il était comme ça, avec les bras croisés, les pieds comme ça, hein. Il y en a d'autres aussi, il y a des pieds comme ça. J'en ai vu, hein. Même avec des aubes. Ouais. Comme ça. Enfin, lui, il dit comme ça. Dans le coin d'une colonne. Et, bon, il allait rigoler, il allait voir tout le monde tomber. Et là, je le vois, lui. Ah, oh, j'ai dit, oh, oui. Belle armoire. tout transpirant de sensualité, de machin. Alors, elle dit, ah oh, oui, ah oh, bah tiens, si tu veux, je peux te bénir. Alors, elle me dit, bon, il fait un pas. Et puis, alors, bon, je lève la main, puis je fais la bénédiction. À ce moment-là, je vois ses yeux qui sortent de ses orbites, comme ça. Il monte de 10 cm, comme ça. Il se sent monter de 10 cm, comme ça, de hauteur. Il dit, qu'est-ce que tu me fais? Et boum! À ce moment-là, je vois des centaines de gens se courir. Oh, les gens, mon Dieu, qui sont bêtes. Mon Dieu, qui sont bêtes. Il est mort maintenant, oui, c'est pour ça que je peux parler. Ah là, il est resté au moins 3 quarts d'heure. Et je peux vous dire que c'était un avertissement. Voilà. L'état de recueillement. Tu ne bouges plus parce que c'est l'amour de Dieu qui t'a mis dans un état de réceptivité de ton âme, de la lumière, pour la bénédiction spirituelle qui s'y répand. Hein? Et que le travail de la bénédiction, le travail de Jésus, le travail du Saint-Esprit commence à faire des transformations, des imprégnations, comme l'eau se mêle au vin, comme l'huile se mêle au buvard. Dans la troisième demeure, il n'y a aucune huile qui se mêle au buvard de votre vie, de votre esprit, de votre âme et de votre chair, et de votre cœur. Aucune. Ça n'existe pas dans les 3 premières demeures. Il n'y a que des grâces actuelles, mystico-dingo, sympathiques, qui vous gardent fidèles, qui font de vous des instruments généreux d'œuvres formidables sur le plan apostolique, ce que vous voulez. Mais, parce que la grâce actuelle ne sanctifie pas, ne transforme pas. Le silence du néant, du rien, de la nuit, permet à l'union hypostatique de Jésus de donner la grâce à la tienne par l'Immaculée Conception. Alors c'est la 4e demeure. Vous voyez, comme ce qu'on appelle le repos du Saint-Esprit est un avertissement qui correspond à l'état dans lequel vous êtes dans la 4e demeure, c'est-à-dire l'horizon de quiétude. Eh bien, l'avertissement que nous allons avoir dans quelques jours est l'état dans lequel tomberont tous les sorts. Comme un reproche, c'est vrai, comme un avertissement, comme une leçon, mais aussi comme une grâce pour expliquer l'état dans lequel ils sont dans la 5e demeure.
Vous pouvez répéter?
Alors, moi je veux bien, mais... Donc... je préfère que vous soyez attentifs tout le temps, pas
je
seulement
dis, attentif,
pas seulement de temps
en temps. Très bien. Oui.
La justification est une dérive négative du sentiment de la conscience de culpabilité. Je recommence donc. Eh bien, autant le repos du Saint-Esprit que je vous ai décrit
c'est la dernière phrase.
Non, mais c'est parce qu'elle n'a pas entendu.
J'ai pas entendu la dernière
elle
phrase.
Pas entendu.
Je vais vous demander si vous pouvez me la répéter.
Mais c'est pour ça que je suis en train de la répéter. Ne m'interrompez pas, parce que vous, si vous répétez à chaque fois une interruption, c'est vraiment psychotique. Donc, vous écoutez. De même que le repos du Saint-Esprit que nous avons décrit là, que vous avez certainement quelques-uns vécu une fois dans votre vie. Peut-être heureusement non. Attention, c'est pas parce que vous ne l'avez pas vécu que du coup vous êtes au-delà de la quatrième demeure. Ou dans la quatrième demeure, parce que ça peut vouloir dire aussi, comme Henri, il l'avait jamais vécu, qu'il n'était même pas encore entré dans la première demeure. Ça, c'est un autre problème. Cet état extraordinaire de la quiétude, c'est-à-dire du rassemblement de toutes les puissances dans une âme qui s'ouvre largement dans la quiétude et la liberté, et dans la liberté à la transformation surnaturelle initiale de Dieu dans votre âme, votre cœur, votre chair, votre esprit, correspond à l'horizon de quiétude de la quatrième demeure. De même, l'avertissement que nous allons avoir dans quelques jours mettra tout le monde dans l'état de reproche, d'avertissement, dans lequel sont mis les chrétiens et les hommes qui sont établis dans leur raison surnaturelle chrétienne normale, dans la cinquième demeure. C'est-à-dire ceux qui ont accepté de rentrer et de se donner totalement à travers la lumière surnaturelle de la foi. Ce sera un avertissement pour vous dire, vous n'êtes pas allé en vous donnant dans la lumière surnaturelle de la foi, spirituelle. Hein? Où est-ce qu'était la supervenue du Saint-Esprit? Où était le bon bras du Père? Où était la conception du Verbe dans la lumière surnaturelle de votre foi, votre esprit, votre âme, votre corps, dans la durée d'une demi-heure? Jamais, vous n'avez jamais été donné à moi, alors que je t'ai tout donné, même une demi-heure. C'est un reproche. C'est un avertissement. C'est une leçon. C'est une prophétie. C'est l'annonce d'un châtiment aussi si tu n'y obéis pas. C'est en même temps une grâce où le Seigneur te dit, voilà, avant que ça n'arrive, l'état dans lequel je te mets dans la cinquième demeure, pour rentrer, passer de la vie illuminative, qui reste encore une vie de croissance, vers la sainteté, à la sainteté de la sixième et septième demeure. Parce que ce que je veux, c'est des chrétiens qui vivent de l'amour dans l'union. Et de l'union parfaite avec moi. Alors, il y a une union parfaite de la sixième demeure qui n'est pas totale, et une union parfaite, c'est-à-dire elle est parfaitement vraie. Mais elle n'est pas totale, et puis elle est parfaitement vraie et totale dans la septième demeure. Ben, c'est là où mon Dieu nous attend depuis qu'on est chrétien. Alors, c'est quand même une tristesse si au bout de 2000 ans, il y a peut-être, disons, allez... je suis vachement sympa, 1000 chrétiens sur 1,1 milliard qui rentrent dans la cinquième demeure. Et alors, je suis très très sympa. Non, je vous assure que non. 1000, je ne crois pas. Je vous assure, je ne crois pas. On est 600 millions de prêtres et on est 4 millions de consacrés. Je vous assure qu'il n'y a pas 1000. Comme dirait mon vieux père Emmanuel, fermez-la. Ne vous inquiétez pas. S'il y a l'avertissement,
il y a la grâce.
Il y a la grâce. Si on est si peu nombreux, c'est parce que le méchôme s'est installé. si il y a l'avertissement, c'est parce que quelques-uns, le cœur de l'Église, les mille en question, hein, 6 000 à cause de l'Immaculée Conception, donc c'est le chiffre biblique, les mille en question, en communion avec les 50 milliards d'enfants qui sont encore vivants en raison de ce qui est encore vivant dans les cellules staminales de leur existence dans le corps de leur mère. Il y en a 50 milliards à peu près, hein, qui ont moins de 50 ans. Plus 1000, les deux ensemble, avec le fruit des sacrements, réclament et obtiennent la grâce. De l'ouverture des temps et obtiennent la grâce. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est pour ça que demain je voudrais beaucoup et j'aimerais donc qu'il y ait, que ça ne, qu'on ne soit pas du tout étranger, qu'on comprenne, c'est le but hein, de, à chaque fois, quand on vient ici, qu'on voit ce que c'est, qu'on touche, qu'on fasse l'expérience, cette touche de la cinquième demeure de l'union transformante. Avant. De manière qu'on puisse. C'est pour ça qu'on fait le BBB 3. Hein. Donc, d'abord, pour qu'on voit ce que c'est l'Église. On sait exactement ce que c'est que l'état surnaturel que, dans lequel nous sommes, dans la demi-heure, si on est dans la cinquième demeure. Attendez. Je peux vous dire juste une toute petite chose, toute simple. D'accord. Vous êtes dans la quatrième demeure. L'horizon de quiétude. Ça, quand même, j'espère que ça vous est arrivé. Hein? Vous êtes horizon et puis vous êtes dans le même état que si vous étiez dans le repos du Saint-Esprit. Disons, à peu près. Ça, c'est un signe clinique, disons. Ça ne veut pas dire que vous êtes affalé sur la chaise, pas du tout. Hein? C'est pas affalé. Non, c'est pas ça. C'est que c'est, vous êtes là. Et. Vous voyez, mes mains ici, là, ne sont pas dans l'horizon de quiétude. Pourquoi ? Parce que je vous parle, c'est normal, je suis actif. Et j'utilise le cerveau sapientiel qui est un charisme, hein, c'est une grâce actuelle pour anéantir en vous l'athéisme. La grâce actuelle a pour but d'anéantir l'athéisme et pas de sanctifier l'âme de celui qui reçoit la grâce actuelle. Hein. Ça ne me sanctifie pas de faire ce que je fais. Mais ça a pour but d'anéantir l'athéisme, parce que ça, le cerveau sapientiel, c'est un charisme. Bon, alors, c'est inscrit dans le monos de samedi du sacrement de l'ordre du prêtre. Bon, très bien. C'est en raison, pas du tout d'une originalité de la personne, c'est en raison de la puissance surnaturelle du sacrement de l'ordre, lorsqu'on veut bien l'utiliser. Voilà. Donc, simplement, voilà, je vous explique. Alors, ici, si je veux me recueillir ici dans l'instant présent, je sens mes mains. Et si je veux me recueillir, tiens, elles se ressoulèvent. Bon. Même si je reste dans ce 4-5 secondes. Il faut faire beaucoup d'actes intérieurs de vision naturelle, de oui. Dans le oui de l'immaculée conception, et que je passe dans la. Je vous l'ai déjà dit, je crois, avant-hier, je renouvelle, j'attends 3 secondes, j'attends 15 secondes, j'attends 10 secondes, pendant 10, 15, 20 minutes. Et au bout de 10, 15, 20 minutes, voilà, sans bouger. Et pas comme ça. Pas les pieds croisés. Pas les jambes croisées. Pas les bras croisés. Et pas la tête comme ça. Tête normale. Vous ne verrez jamais d'ailleurs quelqu'un dans le repos du Saint-Esprit hein, qui tombe par terre comme ça. Jamais. Droit. Regardez tout à fait les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est la même chose. Dans l'horizon de quiétude. Et au bout donc de 20 minutes, d'acte, vous vraiment vous disparaissez, vous engloutissez merveilleusement, délicieusement, en toute confiance, sans aucune inquiétude en Dieu. a juste la peur de rajouter un mot membre dans vous, c'est tout. Il n'y a plus que le moment de Dieu, le moment de Jésus. Cette nuit obscure de l'union hypostatique de Jésus. Le surère, l'apparition silencieuse dans le silence de la présence. Ah, déjà, je le sens là. L'autre, c'est parti. Bon, je vois comme je me réveille pour vous parler, je sors dans les autres études. Mais, vous voyez, et bien, toc, ça y est, il y a le recueillement des puissances. L'imaginaire est absorbé, la mémoire est absorbée. Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas de ronron en disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je me suis fait engueuler par mon mari. C'est fini. Tout ça, la mémoire du passé, la mémoire par rapport au futur, l'angoisse, les sentiments de culpabilité, l'angoisse, tout ça, le cinéma, la folle du logis, tout ça, absorbé. Absorbé. C'est ce désir de rentrer dans la réceptivité d'une connaissance nouvelle, tout ça absorbé. De comprendre ce qui s'est passé dans la cousine germaine de mon gendre, enfin bref. Tout ça est absorbé. Pour que je puisse l'aider, bien sûr. Bon, tout ça est absorbé. Mes connaissances même spirituelles antérieures, mes apparitions antérieures, tout ça est absorbé. Tout est absorbé et je suis au repos. Mes puissances même, et je suis dans une conscience tellement ouverte, tellement une vie, une acuité de réceptivité, une intériorité, une onction délicate, un parfum, celui du Saint-Esprit, peut se répandre dans la nuit. De mon âme se répand en entier partout, prend toute sa place dans l'espace vivant immense de mon âme en quiétude. Comme je suis parfaitement conscient, je peux faire un petit retour, il ne faut pas s'y attarder, c'est une curiosité, sur mes mains par exemple, ou mes jambes, ou constater que je ne suis pas comme ça, dans le ronron du chat. Constater que mon corps est dans un état de rassemblement, comme dans le sommeil. D'ailleurs, s'il fallait que mon corps bouge, il faudrait que je fasse un effort pour qu'il rebouge une deuxième fois, comme quand on se réveille. Mais on n'est pas endormi. C'est toutes les puissances qui sont endormies pour que la puissance de Dieu puisse envahir dans la réceptivité éveillée de mon esprit. Ça, c'est la quatrième demeure. Ça va? Faites ça une demi-heure par jour. Bon, ça, presque tous, je vous connais, la dernière fois, tous ont eu au moins une touche de la quatrième demeure, mais là, à fond. Ça, j'ai vu la dernière fois, presque tous. Bon. Et même à un moment donné, quelques secondes, ça, je les ai bien repérés, presque les deux tiers, de la cinquième. Eux-mêmes ne l'ont peut-être pas vu, mais je vous assure que je l'ai vu. Combien de temps il vous faut pour arriver à être habitué à repérer l'horizon de quiétude de la quatrième demeure? Est-ce qu'il va falloir trois mois? Sûrement pas. Une semaine de fidélité suffisent à atteindre la quatrième demeure. Puisque c'est l'état normal de prière du chrétien, c'est le commencement.
Je vais aller travers.
Mais si vous êtes fidèle à l'horizon dans la quatrième demeure, alors évidemment, une semaine, vous ne serez pas, au bout d'une semaine, pendant une demi-heure, continuellement, dans l'horizon de quiétude, évidemment. Mais, au bout d'une semaine, vous aurez des moments très nets, qui dureront 5 minutes, 10 minutes de raison de quiétude sur la demi-heure. Ça, c'est sûr. Bon. Vous êtes fidèle à l'horizon de quiétude. Chaque jour. Ça va un petit peu prendre plus de place. Plus de temps aussi. C'est pas la peine de le contrôler. Ne vous inquiétez pas. Puisque c'est Dieu qui contrôle. Mais à un moment donné, vous verrez, ça peut durer sur le cadran 3 minutes ou 5 secondes ou quelquefois une heure. Parce que c'est d'un seul coup. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que Dieu. Rien, il n'y a plus rien, plus Dieu. Le temps lui-même disparaît. Même le temps est absorbé, suspendu. Et vous ne vous en rendez pas compte. C'est la cinquième demeure qui pointe son nez. À la fin, quand vous revenez à la quatrième demeure, vous savez quelque chose s'est passé. Surtout en plus. Quand ça dure évidemment plus de 20 minutes, au lieu de l'horizon de quiétude pendant 20 minutes, vous avez eu 19 minutes de cinquième demeure, et puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas le moindre doute que Dieu est passé. Pas le moindre doute. C'est ce que Thérèse d'Enfant Jésus appelle le raccourci, ce que Thérèse d'Avila appelle le raccourci. Hein. Le raccourci, c'est d'aller tout de suite dans la paternité amoureuse de Dieu, se laisser prendre, et qu'il n'y a plus que le Père. Donc elle explique comment rentrer dans la cinquième demeure. C'est le raccourci de la petite Thérèse. Le raccourci de la petite Thérèse, c'est pas le truc imaginatif. Mon papa me prend dans mes bras et c'est l'ascenseur, etc. Ça, c'est l'image qu'elle donne. Mais ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait. Et c'est ce oui à cet acquiescement et à la disparition dans le oui du Père qui fait ça. Et pendant l'avertissement, c'est ça qui va se réaliser. À la différence près que le fait de vivre dans la nuit, on le vivra dans la lumière de notre liberté originelle. Ce sera la seule différence, mais ce sera la même chose. Donc quiconque est établi dans le centre de gravité par l'horizon, surnaturellement par dans sa vie chrétienne, dans la cinquième demeure, ne sera pas tellement surpris. Il sera pris par l'avertissement comme tout le monde. Mais il ne va pas tomber par terre. Il redira son oui tranquillement, surnaturellement, mieux encore, pour aller dans l'au-delà de l'unité de la quatrième et de la cinquième demeure jusqu'à la frontière de la sixième et entrer dans l'union parfaite. L'avertissement, oui, il aura une certaine souffrance de l'âme parce qu'il va s'apercevoir qu'il n'a pas la puissance de rentrer dans la plénitude de fiançailles spirituelles de l'union parfaite. Mais ça, de toute façon, ces souffrances-là, on les a dans l'horizon, dans le passage à la sixième demeure. C'est dans l'horizon, c'est aux fontaines cristallines, c'est dans le miroir de ces eaux argentées. tu me laissais voir enfin les yeux que sans fin je cherche et que je garde dans les poches dans mon cœur. Oui, tout ça se fait. Le passage de la cinquième à la sixième demeure ici. Et c'est gigantesque qu'on en perd. Certains, je suis pas armé pour être en affinité avec les dispensales, avec. À l'arrière, à un moment de stupeur, de puissance d'amour, là, on dit non. C'est bizarre. C'est une crainte de Dieu qui est aussi une part de l'inconnu. Alors, de se donner substantiellement dans les fiançailles, c'est terrible. Alors, on se recule. Et puis au lieu de s'élancer, de s'engloutir dans l'union d'amour, en affinité sponsale avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, on dit non, mais ce non va durer un centième de seconde, un dixième de seconde. Et Dieu respecte tout de suite, et il dit bon, ça va, reviens dans la cinquième. Et plus alors je vais dans la cinquième, mais ah non, j'ai dit non. Ça fait souffrir, alors. C'est pour ça que l'entrée dans la sixième demeure devient une souffrance surnaturelle. Une soif de souffrance de nuit, de souffrance substantielle. Et du coup. Alors, c'est pour ça que Saint Jean d'Acre dit ce nom sous forme de divers en disant éloigne-les, j'ai réclamé ces yeux que j'enferme, que sans sein, sans fin je cherche, et que je garde à l'ébauche dans mon âme. Non, là, je dis éloigne. Non, éloigne-les, mon bien-aimé. Trop tard. Du coup, il est parti. Alors, et puis, on réentend. Oh, viens, ma colombe, viens. Car voici qu'au sommet des monts apparaît un cerf blessé, savourant la prise fraîche de ton vol. Le passage de la cinquième et la sixième demeure, c'est celui du papillon à la colombe, dans la blessure du cœur de la soif infinie, éternelle d'amour, victimale du cerf blessé, du roi et du Seigneur. Et là, on rentre dans la sixième demeure. Et rentrant dans la sixième demeure, alors à ce moment-là, tous ceux avec qui je suis en relation physique, surnaturelle, lumineuse, dans la cinquième demeure, sont emportés avec moi, de la prise de Lucifer. Voilà pourquoi, s'il y a une seule personne qui est dans la cinquième demeure et qui va peut-être rentrer dans la sixième demeure, c'est des millions et des millions de démons d'enfer qui sont sur elle, abandonnant tous ceux qui sont dans la première, deuxième et troisième demeure. Pour se précipiter sur elle, pour empêcher, parce que le fruit qu'il en perdrait sera beaucoup plus considérable. Des millions et des millions d'heures de gens passés dans la quatrième demeure. Alors voilà, les cinq premières minutes seront comme ça pour nous. Et les minutes suivantes, comme on verra tout à l'heure, on sera tout mis en même temps, tout proche de la présence enveloppante du oui, de la lumière intérieure, du oui de l'Immaculée Conception dans son oui originel, puisque cette lumière-là va envelopper notre lumière, et ce sera quelque part notre enveloppant. On pourra s'introduire dedans. S'y reposer dedans, s'y consoler dedans, ça durera environ 5 minutes supplémentaires. Il ne faut pas oublier aussi, bien sûr, qu'il y aura 5 minutes supplémentaires ensuite pour entrer dans ce oui extraordinaire de la liberté incarnée. Donc on verra ça demain. On verra ça demain. On l'a déjà vu de toute façon. Ce sera la quatrième fois qu'on le verra alors. On le reverra. Mais en tout cas, ce qui est pour nous ce qui nous saisit le cœur, notre intention, ce qui saisit Dieu, ce qui nous saisit en Dieu, c'est ça. C'est ce désir de dire oui pour être là, entièrement donné pour le monde nouveau. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut qu'on soit établi dans la cinquième et qu'on arrête ce refus tout le temps de laisser tomber tout ce qui n'est pas la cinquième. Un refus obsessionnel. Parce que ça, c'est vrai. Il suffit de vous regarder pour savoir que c'est obsessionnel. Ça va chercher un peu de temps. C'est inouï, cette perte de temps. C'est continu. Intérieur, c'est excellent. Alors, là, on favorise, on est favorable. Pour se former, on a une formation. Et Dieu nous forme, l'Église nous forme, la grâce sanctifiante nous forme. L'Esprit Saint nous forme, l'Immaculée nous forme, le fruit des sacrements nous forme. Dans la cinquième demeure, il faut apprendre à opérer, à titre de coopération, le fruit des sacrements partout, pour tous et toujours. De manière réelle, immédiate, actuelle, féconde et efficace. Résumé, je m'excuse, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai fait moins bien qu'hier. Du coup.
Ouais. Et c'est pas ce jour-là que le soleil s'obscurcira.
Les jours ténébreux. Voilà. Donc ça va durer donc 20 minutes. Hein. Donc il y aura à un moment donné ça, nous tout seul. Bon, l'Immaculée Conception. On pourra, si on y est habitué, se conjoindre à elle dans l'au-delà de l'intimité. Saint-Joseph, ensuite, ça durera cette année-là, on pourra se conjoindre à elle et à lui dans la profondeur de l'unité de la Sainte Famille. Voilà. Si on s'y est préparé, si on l'a fait, si on est à la seconde demeure, ça se fera automatiquement. Les autres, ce sera une comparaison terrible, puisque... Ils ne vont même pas imaginer qu'ils peuvent se mettre en communion spontanée avec une ontologie de l'Immaculée Conception accomplie. Un habitus, c'est un habitus, c'est-à-dire un vice, c'est-à-dire la névrose obsessionnelle, le fuite contraire est toujours là. Et une fois que ces 20 minutes seront passées, ça y est. Tout le monde va se réveiller. Personne ne sera endormi. Jamais personne n'aura été aussi éveillé de toute sa vie. Mais non, ils ne vont pas se demander. Ils vont pas du tout se demander ce qu'il leur arrive. Ne vous inquiétez pas, personne ne va se demander ce qu'il leur arrive. Mais c'est sûr que ça, c'est la dimension principale de l'avertissement. C'est une grâce, l'avertissement. Quand Dieu me crée dans la lumière ontologique de mon oui originel, avec tout ce que ça implique comme puissance, comme intériorité, comme jubilation, comme louange cosmique, comme c'est pas seulement extraordinaire, c'est un don, la liberté du don. C'est dans cette lumière qu'on va voir que, bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas été brillant. D'accord. Mais attendez, je m'excuse, mais le nom est plus fort que...
C'est un cadeau, non.
C'est gigantesque comme cadeau. Et donc, évidemment que c'est un cadeau gigantesque. Il dit, maintenant, je vous donne aller face au démon, face à l'Antichrist. Allez-y maintenant. vous êtes libre. Ah non, bon, je vous redonne votre liberté, on a voulu la briser dans mes choses. Mais moi, je le brise, je la décèle. Cette brisure de votre liberté originale, mes choses dans le sein des saints de mon corps original, la paternité vivante et lumineuse de Dieu, je la décèle, je la brise et je la scelle dans le sang venu d'en haut, dans l'au-delà de l'union apostolique des chérubins de Jésus. Oh, quelle libération il est devenu. Un très grand exercice, le règne Sacré-Cœur se démarra explicitement, universellement, l'évangile sera répandu et annoncé à tous les peuples, à toutes les nations, la mise en place du corps spirituel venu d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'il y aura quelques-uns qui, suspendus ainsi, en communion avec tous ceux qui seront dans la détresse de ces instants-là, sauront comment faire pour leur donner la surabondance de leur oui surnaturel universel catholique, hein, et ils apprennent à Satan, bien sûr, comme nous. Et voilà que commence l'évangélisation et le baptême surnaturel, actuel, efficace, fécond, implicite et explicite, mais secret et mystique. C'est pas un hurrah alors. Alléluia, maman. Que on évangélise les gens.
L'avertissement précède le miracle.
Alors, ça.
Non, moi, je vais amener ma mère, pas Isaïe. Si moi, c'est je prends un hélicoptère, je loue, je me machine et je l'amène.
Où ça ?
Eh bien, à Garabandal.
Ah oui, non, mais c'est autre chose. Attends.
Mais où il est ?
Non. Là, je t'en supplie. Memoria Dei, d'accord ? Attends, on n'est pas dans une session prophétie. C'est autre chose. Garabandal, c'est autre chose. Non. Ok, Garabandal. Très bien. Tout ce que tu veux, je suis pas contre. Hein. Pas ça, il faut surtout pas qu'un jour ténébreux, je m'en fous. Le grand miracle, je m'en fous pas, mais je m'en préoccuperai après. D'accord ? Parce que ça, c'est le ministère d'Élie. Et des deux témoins de l'Apocalypse qui commencent. C'est pas pour être guéri d'Alzheimer. Rien à foutre d'Alzheimer. Rien à foutre. C'est Dieu et mon prochain, mais vous voyez, dans son réveil, dans sa sainteté, des pauvres qui sont captifs du méchant, qui sont captifs de l'athéisme, qui sont captifs de ce délabrement, de cette déchirure métapsychique quasi universellement répandue, quoi. C'est tout. Cette perversité, cette inversion universelle. Le démon est rentré dans le corps mystique de l'Église, dans tous les membres vivants de l'Église catholique, presque sans exception. Ça m'embête. Ah, révélation privée de tous les côtés, des révélations privées, de tous les côtés. Mais l'union transformante, la cinquième demeure, rien de tout ça, Dieu seulement, n'existe plus. Ça m'embête. L'Église est terrifiée devant la situation des enfants du christianisme. Terrifiée. Qu'est-ce qu'il a dit le pape ? Je suis terrifié. Benoît XVI. Hein ? Quand je vois les prêtres, quand je vois les catholiques. Ouais, c'est vrai. Avec les enfants, avec les 50 milliards, avec nos modèles, comme disait Saint-Thérèse, Jésus, ces 50 milliards, ces enfants-là, qui sont encore leur corps vivant. Oh, c'est un génial, millionnaire, ils sont encore vivants, et bien, et avec les mines, avec l'Immaculée Conception, avec ceux qui ont un corps ressuscité, Jésus, Marie, Joseph. Je vous signale aussi Jean. Jean.
Et peut-être Élie, non, pas Élie.
Non, Élie.
Encore.
Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il ne sera pas là. Il viendra 5 à 6 mois après. Ne vous inquiétez pas. Il ne sert pas la pince.
Non, mais quand tout cela arrivera, redressez-vous et relevez la tête.
Oui, c'est ce que je vous dis ici en ce moment. Je pense que cela arrivera. C'est maintenant que
ça arrive.
Donc c'est maintenant qu'il faut se redresser la tête. Laissez tomber tout le reste. Sinon, vous êtes vraiment dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est ne vous obstinez pas avec votre spiritualité. Laissez-la tranquille, votre spiritualité chrétienne, catholique, de pointe. Tu vas continuer de balader longtemps? On continue, s'il vous plaît.
On se redresse, on relève la tête.
Non, on en était quand elle était dégueulasse.
Ne retiens pas ce qui va bien. Retiens ce qui est bon. Oui, il faut rentrer dans l'oraison jusqu'à la transformation de la cinquième terreur de l'union transformante. Ces deux silences dans l'au-delà des deux silences, dans tous les silences de tous les temps, traversant tous les silences eucharistiques de tous les temps, tous les lieux, et c'est là sans transformer dans le fruit de ce silence eucharistique dans tous les temps, tous les lieux, dans l'au-delà des fruits de l'immaculation immolée, de l'épouser dans le Père, suspension du temps, absorption de tous les instants. C'est facile de bénissons le Seigneur. Voilà. C'est bien, à l'heure du soleil, il est 6h30. Ne vous inquiétez pas. 6h30 à l'heure du soleil, c'est bien. On s'en fiche de l'heure. Puisque le temps. C'est la fête de Saint Abraham aujourd'hui, le père de la foi. Saint Abraham, Saint Isaac, Saint Jacob, la fête des patriarches, donc la fête du Père. la fête de la paternité surnaturelle. C'est les premiers qui ont engendré la vie surnaturelle dans l'histoire des hommes. La fête de la paternité surnaturelle. Hein, la fête du Père, hein, 20 décembre. Voilà, donc bonne fête. Hein, bonne fête au papa qui est en vous, Père. Hein, bonne fête à mon papa Saint-Joseph. Bonne fête, tout ça. Bonne fête à Abraham, 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 Abraham. A donné toutes les entrailles de son âme, de sa grâce, de sa bénédiction à Dieu, bon, et il l'a arraché de lui pour l'immoler avec un couteau. Voilà, parce que l'ange lui avait demandé, donc, parce que c'était la sagesse créatrice de Dieu, c'est la sagesse du Bereshit, que la sagesse créée des origines de toute la création, c'était la sagesse de la croix et de l'immolation, de ce que nous avons de plus cher dans le don de soi-même et dans le don de ce qui est plus cher en soi-même. Et donc, aussitôt qu'il rentrait dans la vision naturelle, Abraham s'est vu demander de s'arracher à ce qu'il avait de plus cher, de ce qu'il était lui-même, vivait lui-même, engendrait lui-même, aimait lui-même. Dans le temps comme dans l'éternité, il a arraché de lui-même en voulant sacrifier, en obéissant par la foi. Et le Père, Dieu le Père, voyant qu'un homme était capable de faire ça dans la foi, dit « Je ne peux pas faire moins qu'un homme. » Et il a donné son fils à cause d'Abraham. Qu'on célèbre la messe quand même dans 10 minutes à peu près, parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à 22h pour